Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je découvre qu'il y a un petit décalage entre mon retour et le Zoom, j'ai pas l'habitude. Bonjour et bienvenue à tous dans ce live exceptionnel de la draft NFL 2024, la présentation, la semaine de la draft. C'est Grégory que vous voyez en bas de votre écran qui présentera le vrai live de la draft désormais. Mais on a décidé de faire une petite émission spéciale dans l'intervalle pour parler un petit peu de cet événement. C'est toute une semaine de draft mardi soir, aujourd'hui le live pour les questions des experts, demain vous aurez une mock draft, jeudi le direct du premier tour, vendredi, enfin dans la nuit de vendredi à samedi, les directs du second et du troisième tour. Les deux experts en question, ils sont là, à ma gauche sur votre écran. Alors attends, je sais pas faire les trucs, c'est là ou c'est là?
C'est
je
là,
sais
ouais, pas. T'as la bonne.
Donc à ma gauche sur votre écran, Nitinia Simulong. Bonjour Nitinia.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Nitinia, tu avais fait du live l'année dernière sur la draft?
Le deuxième tour.
Le deuxième tour, bon. Donc, on t'a beaucoup entendu, évidemment, dans la présentation de la draft. Juste en dessous, là c'est facile, c'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
Bonjour Alain, bonjour messieurs, enfin bonjour à tous. Très, très, très ému d'avoir Alain qui reparticipe de nouveau à des podcasts draft. C'est assez rare désormais pour être souligné.
Alors, en préparant mes notes, j'ai réalisé que j'avais des notes un peu similaires de l'année dernière. Donc, je crois qu'on avait déjà fait une émission un peu de ce type pour, avec Victor, apparemment. Dans mes notes, j'avais
Cru que tu allais me dire j'ai récupéré mes notes de 2016-2017.
Exactement. Je fais les mêmes
exactement la même question.
J'ai un peu. Je vous donne un peu d'à côté. Mais j'ai
sélection
un peu
de Jared Goff.
Ouais, non, mais je veux dire, j'ai un peu fait dans l'enseignement ces dernières années. Bon, bah, je prends les habitudes. J'ai préparé les cours une fois. Après, je fais 5 ans la même chose. Hein.
L'important, c'est que ce soit pertinent, même si c'est recyclé.
Évidemment, c'est un cliché, je plaisante et j'ai beaucoup de respect pour nos amis professeurs. Si je dis j'étais, c'est parce que je ne le suis plus, parce que c'est très difficile. Messieurs, donc la draft arrive, on va rappeler les bases. Et déjà, on va dire bonjour dans le chat. D'ailleurs, j'ai même pas fait un live Twitch depuis le milieu des playoffs, quelque chose comme ça. On dit bonjour à Biotime, à Huckpin, à Don Gussie, très moche, Alicia, Matt, Zulganob, merci pour l'abonnement. Julien Brossillon, merci pour l'abonnement. Guigui Twick est là. Orlin, JM, Carapuce for the Win est là. Pascal Braco est là. Mats Lindgren, Spoog et plein d'autres. Vous êtes de plus en plus nombreux à arriver dans le chat. On vous dit bonjour et bienvenue à tous. Guigui Twick, merci pour l'abonnement aussi. Ça a été renouvelé et il y a un train de live qui arrive. Donc, on est vraiment très bien lancé dans ce live sur Twitch. Messieurs, bonjour à Elroukino qui vient d'arriver. On n'a pas été sage, il y a un modérateur maintenant. Oui, il y a Mehdi qui est là pour modérer en plus. Donc voilà. Mais bonjour à Mehdi et merci à lui pour son aide. On rappelle donc les bases. Premier tour, nuit de jeudi à vendredi à partir de 1h30 sur cette chaîne. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Ce sera avec Grégory Richard, Jean-Michel Boujard et Victor Roulier. Alors c'est devenu un gimmick. Hein. J'ai vu sur Instagram, je crois déjà, les gens disent « Oui, Jean-Michel sera en costume ». Donc c'est devenu un marqueur fort de la draft TD Actu. Jean-Michel sera en costume. Enfin, je crois, je n'ai pas eu de retour, hein, mais il paraît, il n'y a pas une histoire de chemise.
On entretient un certain mystère, mais c'est possible. Ça fait partie des traditions de la draft et c'est vrai que voilà, On a notre chroniqueur le plus classe qui prend l'habitude de faire ce qu'on aime en voir sur les différents tapis rouges de la draft, à savoir avoir les tenues les plus belles et les plus originales. Donc, on espère que Jean-Mi continuera de relever le défi.
Roger Goodell qui se fait siffler, Jean-Michel qui s'habille bien, ce sont les classiques de la draft. Donc ce sera pour le live sur cette chaîne. Évidemment, il y aura des replays podcasts. Il y a toujours des replays podcasts, même cette émission sera en replay podcast. Résumé à l'écrit sur le site par Nitinia, article par Alex Locke sur le site, les sélections de quarterback et les échanges notamment pour Alex, les réseaux sociaux pour Sébastien Polomeni au réveil. Deuxième et troisième tour, c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sera aussi en direct sur cette chaîne Twitch. Je crois qu'on a inauguré l'an dernier ou l'année d'avant le deuxième et troisième en direct. C'était l'an dernier, je crois.
Ouais, ça commence à faire quelques années, hein. Il y a au
Ouais.
moins 2 ans, je pense. Ouais.
Bon, ben voilà. Donc deuxième et troisième tour à partir de 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sera avec Grégory et Jean-Michel. On ne sait pas encore, on en discutait avant l'émission. Est-ce que Nitinia sera en direct ou est-ce qu'il sera à l'écrit? On ne sait pas. C'est en cours de mise en place. Voilà. Replay podcast, je le redis. Pour aussi les lives, hein, premier tour, deuxième tour, troisième tour, ils seront aussi en replay podcast, ils seront aussi en replay YouTube. Donc, vous aurez tout. Je vous donne les liens si vous voulez vous renseigner sur des joueurs dont on va parler aujourd'hui. C'est les fiches draft, je vous les mets dans le chat. Je vous ai mis le lien pour toutes les fiches draft. N'oubliez pas, la couverture est énorme et il y aura plein de choses. Je n'oublie pas quand même de saluer aussi l'homme essentiel sans qui rien de tout ça n'est possible, parce qu'il n'y a pas de live hein, sans lui. Je ne sais pas s'il va pouvoir montrer son visage à l'antenne ou s'il est en caleçon en train de faire la réal.
Non,
Avec
non,
Camille
désolé,
Farabène.
je peux pas vous envoyer la vidéo, mais voilà, je vous salue en
Ah
tout
bah.
cas. Bonjour à tous.
Comment ça va, Camille?
Très bien.
Ah ouais,
Ça va
parce
très
qu'on
bien.
se voit plus beau, on se voit plus beaucoup, c'est pour ça que j'en profite pour prendre des nouvelles. Bon, Camille, en tout cas, qui sera à la technique ce soir, demain soir, il va tout faire, hein, c'est-à-dire dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, c'est notre warrior à nous, on le félicite et on le remercie encore une fois. Merci Camille, le GOAT, dit Jojo dans le chat, et il a bien raison parce qu'il y a, encore une fois, il n'y a pas de live hein, sans Camille. Et j'allais donc demander, Camille, pour finir cette présentation un peu plus longue que d'habitude, est-ce que tu pourrais me mettre le Tipeee de Touch on Actu ou la page sur les affiches, parce que j'aimerais bien montrer.
Tout à fait, j'ai oublié. Ouais.
J'aimerais bien montrer voilà, bah le lien. Merci, tu l'as mis toi-même dans le chat. On est deux sur le chat en même temps. Et en tout cas, on a des nouvelles affiches draft sur Tipeee. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous soutenir. C'est 10 euros l'affiche ou 25 euros les trois. Et c'est des très très belles affiches draft qui ont été réalisées par notre graphiste Benjamin. Excusez-moi. Un peu malade, vous allez voir au fur et à mesure de l'émission. Réalisé par notre graphiste Benjamin, imprimé par Alex, qui est aussi de l'équipe, imprimé dans le sud de la France. Donc voilà, tout est là. Je vous mets le lien dans le chat avec l'article où il y a les trois affiches. Et Camille, si tu arrives à nous les mettre à l'écran vite fait, on est preneur, sinon on va débuter tranquillement. Mais c'est parce qu'elles sont vraiment jolies, donc j'ai envie de les montrer. Alors je sais que c'est pas très visuel pour ceux qui vont réécouter en podcast, mais elles sont tellement jolies. Ça fait un teasing en plus, tu vois. Ils
Ça, c'est
se
les intrigues graves,
Ah
justement.
ouais.
Allez voir le
Ça.
direct vidéo. Hein.
Tu vois, ils se. Le
Replay la vidéo.
J'ai mis le lien dans le chat, Camille. Je ne sais pas si tu peux utiliser celui-là. Hein. C'est juste pour montrer la photo, en fait, qui est
Non,
magnifique.
attends, j'étais sur autre chose, excuse-moi. Je vais essayer,
Ah
mais
ouais.
je suis pas sûr que ça soit évident.
Bon, bah, c'est pas
Magnifique
grave. Alors.
affiche, hein, d'ailleurs, hein, pour info. Hein.
Ah,
Magnifique.
c'est ça, il y a
Ouais.
une affiche on the clock, il y a
Ouais.
with the first pick, et il y a surtout cette
Voilà.
phrase incroyable, I want my picks back, all of them, qui est quand même une référence à ce monument du cinéma, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça, qui est Draft Day.
Tu n'as
Faut
pas pris une
savoir que,
ride.
ouais, il faut savoir
Ah ouais, non.
qu'Amazon est assez mesquin parce que, tu sais, il est sur Amazon, mais tu peux faire des watch parties sur Twitch, sur les films qui sont dans le catalogue Amazon. Tu peux le regarder avec tes abonnés et te marrer. Sauf que ils le mettent en payant. Généralement, globalement, autour de cette période, l'année dernière,
Ah
il était gratuit en février-mars. Je m'étais dit, ah ben on fera une watch party en avril, ça va être trop bien. Et en avril, bim, il est devenu dans le catalogue payant, on ne pouvait plus faire les watch parties dessus.
Ah bah dis
Merci,
donc.
merci Camille qui nous met ça à l'écran, vous allez le voir apparaître dans une seconde. Bim, voilà les trois belles affiches, regardez ça si c'est pas magnifique. C'est encore une fois Benjamin qui a réussi ça et vous pouvez les retrouver sur notre compte Tipeee, 10
Je
euros l'affiche.
rappelle Alain, je me permets,
Vas-y.
vu qu'on parle de ce sujet-là, j'ai quand même souvenir, je ne sais pas si ça se retrouve, qu'il y a quand même quelques années, on avait fait un débrief, une émission débrief de Draft Day, quand même. Ça, c'est un concept.
C'est possible, ouais. Il y avait une année
Ah,
où on avait fait.
il y avait un article que j'avais fait,
Ouais.
ouais.
Et puis il y avait une année où on avait fait plein de hors-séries comme ça sur le cinéma, sur d'autres trucs. Ouais. Ça commence à remonter, mais oui. Allez, mais si on va rentrer dans le vif du sujet, je rappelle le concept de l'émission et Grégory faisait remarquer que j'étais là. Je suis là pour une raison simple. Je suis le fan NFL qui ne suit pas la NCAA. Et je simule pas, c'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, on a une équipe draft totalement dédiée à ça sur le site. Moi, je suis dans un rôle de manager. Tu vois, j'ai fait des posts LinkedIn pour dire qu'il y a une synergie incroyable entre nos happiness managers et notre équipe draft. Et donc, je ne suis pas forcément à fond la NCAA parce qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, voilà, je suis là pour faire la passerelle entre nos fans NFL, on est un site NFL hein, quand même, globalement à la base, donc qui ne sont pas forcément experts, qui ne connaissent pas forcément tous les joueurs. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter tous les podcasts ou de lire toutes les fiches, etc. Donc là, à 2 jours de l'événement, on va situer ce qui se passe dans cette draft avec des questions très basiques, avec des questions très larges, pour que ceux qui n'ont pas suivi du tout, et ceux qui ont suivi un petit peu également, ne vous inquiétez pas, arrivent jeudi soir, voilà, avec quelques noms qui claquent, avec quelques grandes idées sur ce qui va se passer et sur les enjeux. Évidemment, on prend aussi vos questions sur le chat, et j'en ai gardé quelques-unes qui ont été posées sur Twitter ces derniers jours, puisqu'on avait mis un message. On va commencer par une question simple, parce que c'est la question de la draft, tous les ans. C'est qui le meilleur quarterback et qu'est-ce qu'il vaut? Qui veut commencer?
Bon,
Allez,
vas-y,
Greg.
Niti, je te laisse la primeur. Si tu... Ah, tu veux que j'y aille? Bon, j'y vais.
Allez,
Bah écoute, il y a à peu près 99,9% de chances que le futur numéro 1 de la draft, qui est donc quarterback, soit donc Caleb Williams, quarterback de USC, ce qui serait d'ailleurs un mini-événement, entre guillemets, parce qu'on sait que USC, enfin, beaucoup le savent, c'est quand même une université très cotée en quarterback, et pourtant, il n'y a eu qu'un seul quarterback en provenance de USC qui a été drafté numéro 1 dans l'histoire, c'était Carson Palmer en 2003. Donc il peut devenir le deuxième à réaliser telle performance sous le maillot des Trojans. Pour faire simple, en gros, voilà, c'est lui qui sort du lot, tout simplement parce qu'il a cette capacité d'improvisation, ce facteur X. Hein, on va souvent vous le répéter pendant le processus draft et sûrement jeudi, mais cette capacité à prolonger des jeux, à pouvoir faire de n'importe quelle situation un peu périlleuse, un possible big play et une action qui va faire avancer les chaînes. Donc c'est vraiment ce type de profil-là qui fait l'unanimité aujourd'hui en NFL et qui fait que Chicago a pris la décision de se séparer de Justin Fields et a priori d'en faire son quarterback du futur.
Nitinia, est-ce que c'est le. Quelqu'un dit que j'ai fait un peu une sorte de lapsus dans le chat en me disant quel est le meilleur? Alors, est-ce que le numéro 1 est le meilleur? Pour toi, est-ce que Caleb Williams, c'est vraiment le meilleur? Est-ce que c'est logique qu'il soit numéro 1 et quel est son potentiel pour toi?
Alors, si on parle de Caleb Williams, le potentiel est énorme et l'échantillon est très bien fourni. Il a réalisé 2 saisons universitaires très productives, surtout la saison 2022 où il a lancé plus de 40 touchdowns, notamment si je dis pas de bêtises. Un peu moins productif la saison dernière, mais ça n'empêche pas que Caleb Williams, comme l'a dit Greg, a cette capacité d'improvisation et cette capacité qui peut faire tourner la tête des coordinateurs défensifs, à savoir comment on doit faire pour l'arrêter. Voilà, c'est typiquement ça.
Très bien, il est numéro 1, Caleb Williams, ce sera la star de la soirée. Très précisément, encore une fois, il va falloir vous mouiller, hein, parce que là, je
Ah
veux un peu
oui,
de.
ouais, allez, hein.
Il vaut quoi? C'est Peyton Manning, c'est Eli Manning, c'est Tom Brady, c'est Jamarcus Russell, c'est Zach Wilson, c'est quoi? Caleb Williams.
La comparaison que les médias américains font souvent, c'est Patrick Mahomes
C'est pas mal, c'est
dans
pas
le
mal.
potentiel, dans le potentiel le plus haut qu'il peut atteindre.
Ok.
Après, voilà, il a aussi une comparaison que moi je trouve plus juste, en tout cas, c'est Russell Wilson. Voilà,
Ok,
parce
donc le bon
que
Russell Wilson.
le Russell Wilson des meilleures années, on va
Ok.
dire.
Grégory, si tu le vois, c'est quoi le meilleur scénario, pire scénario pour toi avec Caleb Williams?
Parce que Wilson, ça me paraît une bonne comparaison, même s'il me semble qu'il est quand même un peu plus grand. Donc c'est vrai qu'il y a en plus ce profil-là qui joue en sa faveur. C'est vrai que c'est très clivant. Je ne vais pas te dire que c'est un numéro 1 qui va être unanime aux yeux de tous. C'est vrai qu'on connaît ses qualités, on connaît aussi ses défauts. C'est un quarterback qui peut avoir tendance à en faire beaucoup. Il a un nombre record quasiment de fumbles. Ce n'est pas du tout le même style de jeu. Mais il peut avoir en NFL une trajectoire à la Jameis Winston. Hein. Ce n'est pas complètement farfelu de l'imaginer, avoir un joueur en effet qui est capable d'avoir un jeu très vertical, de vraiment sortir des actions sensationnelles. Et puis sur le jeu ou les deux, enfin l'après-jeu suivant, on dira, complètement manger la feuille en prenant une décision un petit peu loufoque. On n'est pas totalement à l'abri de ce genre de situation-là avec Caleb Williams.
Par contre, si je me permets, Alain, pour terminer, si vraiment il n'arrive pas à s'adapter à la NFL, et en tout cas aux exigences de la NFL, la comparaison avec Jamarcus Russell peut être prononcée, ça c'est clair.
Ah oui,
Mais
c'est violent.
je ne pense pas qu'il peut aller jusque-là. En tout cas, il faut qu'il soit bien entouré parce que voilà, ça c'est sûr dans les deux cas, que ce soit le cas négatif ou le cas positif, ça va être une star. Il va être scruté, il va être surveillé au moindre pas, au moindre lancer, au moindre jeu qu'il va faire tous les dimanches. Donc c'est normal qu'on le surveille de très près.
Plancher Kyler Murray, plafond Patrick Mahomes, nous dit Nolif sur le chat. Plancher Kyler Murray, plafond Patrick Mahomes? Ouais.
Plancher, pas Kyler Murray, je suis pas convaincu perso.
Oui, plafond Patrick
Ouais.
Mahomes non plus. Je ne je le vois pas
Ouais,
aller, je le vois pas aller jusque-là. Ça,
un
honnêtement,
peu plus bas, quoi.
si tient ses promesses, ça peut être un top 10 quarterback. Après, être au niveau de Patrick Mahomes, encore une fois, on avait entendu le même type de comparaison à l'époque avec un Zach Wilson qui était capable de sortir énormément de jeux un peu
Donc,
spéciaux du côté de BYU. On a vu ce que ça a donné.
eh ben,
Faut
très
toujours se
bien,
méfier des comparaisons.
très bien. On va rester là-dessus. Caleb Williams, numéro 1, potentiel top 10 quarterback.
Potentiel.
On va retenir ça. Beden Barrett, premier message sur le chat. Bienvenue à lui sur le chat. Bonjour la team, comment jugez-vous cette classe de draft comparée aux précédentes? Est-ce qu'on est sur une bonne QV ou sur une mauvaise QV? Question générale sur cette draft.
Ah, donc pas que sur les... Ah oui, que
Sur
sur les QB,
l'ensemble de la
pardon.
QV, sur l'ensemble de
Ah,
la
sur le
QV,
centre de
alors.
la
Ah,
QV,
sur l'ensemble.
On situe toute la draft.
Bon, écoute, elle en laisse quand même beaucoup sur leur fin, cette classe. C'est vrai que pour des raisons un peu diverses, c'est vrai qu'il y a des joueurs dont on pensait qu'ils allaient s'inscrire et qui ont fait le choix. Alors, pour une situation qui aujourd'hui en foot universitaire est un peu particulière, parce que il y a des droits à l'image et des intérêts financiers qui sont un peu différents. Donc aujourd'hui, les joueurs font un peu moins le choix de partir très très tôt chez les pros. Donc on peut se dire que le plateau aurait pu être relevé, notamment sur certaines positions. Je pense à linebacker, dans une moindre mesure à safety. Enfin, en tout cas, il y a des positions clairement où on peut se dire que ce n'est pas non plus la panacée, hein, pour reprendre un grand philosophe de chez nous. Mais c'est vrai que ça ne me paraît pas infamant en tant que tel. Maintenant, j'ai quand même la sensation que il y a peut-être un top 15 qui se dégage. Et sorti de ce top 15-là, c'est des joueurs assez homogènes ou mine de rien, notamment dans les deuxièmes et troisièmes tours. Il y a des équipes qui peuvent se dire qu'il y a des affaires à faire malgré tout.
Donc, à partir du top 15, ça va devenir un peu plus foufou éventuellement pour ceux qui vont suivre le direct.
Oui. C'est assez marqué. Si on prend ne serait-ce que la position de receveur, on en a trois vraiment qui sortent du lot et qui sont attendus dans le top 10, top 15. Et derrière, des joueurs encore plus amenés à être des projets que vraiment des joueurs assez aguerris.
Très bien. On revient au quarterback. Nitinia, combien de quarterbacks au premier tour?
J'en vois 4 minimum, 5 maximum.
Alors, on avait Caleb Williams. Donc derrière, c'est quoi les quatre autres?
Alors, les quatre autres, il peut y avoir Jaden Daniels, le quarterback de LSU, Drake May, le quarterback de North Carolina, JJ McCarthy, le quarterback de Michigan, et enfin, Michael Penix Jr., quarterback de Washington.
Très bien. Il y a quelqu'un dans le chat, parce que je viens juste de le voir passer, mais ça pourquoi je ne le vois plus? Quelqu'un demandait. Ah, voilà, Tucino do Brasil. Au niveau de ce qu'il a montré, si on enlève les blessures, est-ce que Michael Penix n'est pas le deuxième meilleur quarterback? Grégory.
Le deuxième, ça me paraît compliqué. Je pense qu'encore une fois, c'est un joueur qui a vraiment fait de l'attaque de Washington une attaque extrêmement spectaculaire. C'était vraiment une équipe qui jouait énormément dans la verticalité et ça a été quand même une énorme performance de voir Michael Penix emmener Washington en finale universitaire. Alors que déjà, le fait que Washington prétende aux playoffs, c'était quand même quelque chose de pas forcément évident sur le papier. Il y a quand même des choses qui posent problème au-delà, en effet, de ses problèmes de santé. Il y a des prises de décision qui ne sont pas forcément toujours excellentes. Sous la pression, on ne l'a pas forcément toujours vu. Il faut aussi préciser qu'il a joué dans quasiment le même système offensif, en tout cas avec souvent le même coach, hein, puisque c'est lui qui l'a. Il a été drivé par les mêmes hommes quasiment à Indiana puis à Washington. Et surtout, ça, c'est quelque chose qui est à mettre, qu'à prendre en considération. Chez les Huskies, il avait la meilleure ligne offensive du pays. Et on a vu que malgré ce, sous la pression, bah, encore une fois, ses prises de décision étaient peut-être un peu précipitées par moment. Donc, deuxième meilleur quarterback du plateau, je ne suis pas complètement convaincu personnellement.
Après, on va pas se mentir que
Sur,
je. Alors,
surtout,
excuse.
pardon, ouais,
Vas-y,
bah,
finir.
surtout Alain, pour terminer sur Michael Page Jr., pour compléter, il a déjà 24 ans. Il a
Ok.
déjà 24 ans et Michael Penix Jr., ok, en termes de production universitaire, il est peut-être le deuxième meilleur quarterback. Mais le problème, c'est que justement, la draft, c'est pas sur les statistiques qu'on juge la draft, c'est sur le potentiel qui peut y avoir. Et Michael Penix Jr., le potentiel, il est assez limité. Comme l'a dit Grégory, il peut jouer peut-être que dans un système finalement.
Tu veux dire qu'il a mis Junior à la fin de son nom pour essayer de feinter et faire oublier qu'il a déjà 24 piges? C'est un peu une.
Peut-être,
Parce
effectivement,
que.
parce que généralement les joueurs sont juniors quand ils s'inscrivent à la draft.
Moi je représente la team NFL qui suit pas trop et la team jeu de mots aussi un peu. J'avoue qu'on est tous impatients de titrer Les Patriots gagnent grâce à un gros Penix. Tu vois? C'est vrai qu'on n'y a jamais pensé.
Ouais,
Je t'avoue,
ça,
en
ouais.
college football, j'y ai jamais réfléchi pour le coup. Non, mais alors. Juste pour la petite parenthèse, vu qu'on aborde ce sujet-là, c'est vrai que malgré tout, et ça, on ne pourra pas en sortir, il y a beaucoup forcément d'observateurs dans les différentes franchises qui tiennent compte de ça, que ça plaise ou non, qu'on aime tel ou tel joueur. L'âge, et ça, je sais que notamment Victor en parle beaucoup, c'est forcément quelque chose à prendre en considération parce qu'il y a toujours cet aspect un peu projet, marge de progression. Qu'est-ce qu'on peut en attendre sur son premier, voire son deuxième contrat? Au sein de l'équipe. Et avec la situation, encore une fois, qui, comme je disais, en college football a un petit peu évolué, il y a ces histoires, en effet, où les joueurs restaient plus longtemps en universitaire. Il y a eu forcément cette année Covid gratuite, ou en tout cas, on permettait aux joueurs de rester une année de plus s'ils jouaient en 2020, qui fait que, bah, il y a des joueurs qui ont fait quasiment 6 ou 7 ans à l'université et qui se retrouvent à sortir de là, bah, à 23 ou 24 ans. Forcément, il y a des équipes NFL qui se disent, bah, est-ce que vraiment à 24 ans, on peut en obtenir plus? C'est la question qui va se poser avec Michael Penix. C'est la question qui peut se poser aussi avec un autre quarterback qui peut prétendre au premier tour, à savoir Bonix d'Oregon, qui a eu un Son
très
nom
très bon
revient beaucoup, en CV
effet, dans le
à chat.
l'université, mais dont on se dit également que, bah, vu ce qu'on en a vu, ça peut être un très bon, ça peut être un game manager plus plus, mais plus que ça, pour l'instant, on n'est pas sûr, surtout à l'âge qu'il a aujourd'hui. Donc, c'est des questions qui, malgré tout, pour beaucoup. De prospects, de joueurs amenés à s'inscrire cette année vont se poser et vont leur faire perdre quelques points par rapport à d'autres joueurs beaucoup plus jeunes et qui pourront éventuellement être sélectionnés plus haut. En fait,
Et
c'est tellement.
pour
C'était.
terminer,
Vas-y.
Alain, désolé, sur Michael Penix Jr., on a oublié de mentionner un facteur très important, c'est les blessures. Parce qu'il a été souvent blessé, c'est pour ça qu'il a passé 6 ans complets en université.
J'allais dire, c'est le chantier chez vous. C'est-à-dire que maintenant, les mecs, ils changent de fac toutes les 3 semaines et en plus, ils restent 10 ans. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils vont
Ouais,
chercher leurs enfants
ah
à la
bah
crèche
oui,
avant d'aller à
c'est
l'entraînement
ça,
alors qu'ils sont rookies, quoi.
exactement, ouais.
Mais au
Oui,
moins,
c'est ça, voilà.
tu as plus de références. Tu vois. Michael Penix a sorti d'Indiana, qui est quand même une fac un peu plus en retrait que Washington, on va pas se le cacher. On serait dit, bah tiens, il y a énormément de points d'interrogation. Il a quand même montré à l'échelon national que dans une autre université plus huppée, il était capable justement d'apporter ce grain de folie dont avaient besoin les Huskies. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y a des problématiques à prendre en compte. Ça, c'est une mini problématique aussi. C'est le seul quarterback de stop 6 qui est gaucher. Donc, C'est
il faut
vrai
quand même
aussi.
avoir une ligne aussi en conséquence. C'est malgré tout à prendre en considération sur la construction de ta ligne offensive.
Je finis sur les 5 là, dont on parle au premier tour. On a beaucoup parlé de Penix et Nix qui sont pas forcément assurés. Les deux autres, c'était Jaden Daniels, May et McCarthy. Ceux-là, sans rentrer dans les détails des qualités et des défauts de chacun, mais juste pour situer. Il y a des chances qu'ils soient tous dans le top 5, ceux-là, non? Si j'ai bien compris.
Il
Il y a des
y a
chances qu'ils
de
le soient tous.
fortes chances,
Ok.
ouais.
Bon,
Et pour moi, les trois peuvent être même dans le top 4.
oui, c'est ça. Ça peut faire 1, 2, 3,
Voilà,
4.
c'est
Mais
ça.
4
4
derrière
dans le top
Williams.
5, ce serait une première, hein. On rappelle que le record de mémoire, je ne vais pas remonter trop trop loin, il me semble que c'était 4 dans le top 10. C'est la draft 2010, 2018, pardon, avec Mayfield, Allen, Rosen et Darnold. Ouais.
Dans le top 5, c'est jamais arrivé.
Ouais.
D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais tu disais USC, grande fac de quarterback, alors Carson Palmer, mais c'est aussi la fac de Mark Sanchez, Sam Darnold,
Alors, c'est
Matt
ça.
Lennard.
J'ai pas été trop loin dans mon propos. Ils sont réputés en universitaire pour avoir des très très bons quarterbacks. En effet, on a cité quelques-uns. Matt Leinart également, si on remonte un peu plus loin dans une très belle époque de USC. C'est sûr que la transition en NFL n'a pas toujours été concluante. En tout cas, elle n'a pas toujours convaincu des franchises de sélectionner un quarterback de Southern California en numéro 1.
Donc les quarterbacks, on a fait un petit peu le tour. Tiens, alors une question parce qu'elle est dans le chat. Très moche nous demande. Non, pardon, c'était pas très moche, excusez-moi. Ah, quelqu'un nous parlait de Spencer. Voilà, Olerbe, pardon. Pourrions-nous envisager de voir Spencer Rattler titulaire dès le premier jour en NFL ou au cours de la saison? J'aimerais bien que vous me disiez un mot sur Spencer Rattler parce que c'est un nom que j'ai vu circuler ces dernières années. Mais je finis par plus savoir s'il est bon ou pas. C'est-à-dire que même vous, entre vous dans la rédaction, je vous vois polémiquer sur Spencer Rattler. N'est-il un sourire grand jusqu'aux oreilles? Pourquoi Spencer Rattler, ça te fait sourire à ce point?
Non, bah parce que Spencer Rattler, pour ceux qui sont mordus de NFL, voire de foot américain, c'est un joueur qui était un peu une star déjà de télé. Donc c'est pour ça qu'on l'entendait beaucoup
Ah, il était dans le truc de Netflix, non?
de
Oui,
Apprenti
QB1, ouais.
Quarterback. C'est ça, QB1. Ouais. QB1 Beyond the Light en anglais. Et après, effectivement, on l'a perdu de vue bah parce que tout simplement, sa carrière universitaire a pris une très mauvaise tournure. Il commence à être un peu sur la voie de la rédemption. De là à être titulaire au jour 1 pour répondre à ta question, je ne pense pas. Je
C'est
ne pense
ça.
pas. Greg pourra compléter, mais je ne pense
Non,
pas.
j'allais dire oui. Encore une fois, c'est sûr que quand on est jeune, on a un tempérament un petit peu malléable, on va dire. Enfin, en tout cas, on est en pleine construction intellectuelle quand même, malgré tout. Hein. On est en découverte de maturité progressive. Clairement, Spencer Rattler est dans ce cas de figure. Et c'est vrai que le reportage QB1, malgré tout, lui a fait beaucoup de mal dans le sens où on avait ce côté justement du jeune quarterback très arrogant, amené à devenir futur quarterback numéro 1 d'Oklahoma. Et c'est sûr que, bah, en fait, il y a beaucoup de détracteurs qui attendaient qu'une seule chose, c'est qu'il se plante à Oklahoma, ce qui, dans une moindre mesure, est arrivé, parce qu'on rappelle qu'il a quand même perdu sa place à Oklahoma contre Caleb Williams, qu'on attend numéro 1 de la draft, donc tout est relatif aussi. Et en effet, il a fallu qu'il se relance du côté de South Carolina, où tout n'a pas été très évident. Problème de jeu au sol, problème de ligne offensive, mais malgré tout, on a vu qu'il s'est affirmé en leader offensif de cette équipe, qu'il a eu des très bonnes séquences également. Alors, je rejoins ce qu'a dit Nitti, c'est sûr que ça n'en fera pas forcément un quarterback starter dès le premier jour, mais en tout cas, c'est peut-être un peu moins la tête à claque qu'on présentait et un joueur qui peut être un peu plus à l'écoute de ses coachs.
Quel est le meilleur joueur offensif hors quarterback de cette draft?
Oh, ah, Nitti, donne ton avis, moi je ne suis
Je
pas.
crois que là, on a une unanimité, je
Ah bon?
pense. Je pense. Le
Merci
fils de
Camille.
Marvin Harrison, Marvin Harrison Jr., que vous voyez l'affiche là sur l'écran. Mais oui, Marvin Harrison Jr., donc receveur d'Ohio State. Le joueur est prodigieux en université. Ça va peut-être pas faire de lui une superstar en NFL. Mais pareil que Caleb Williams, il sera très, très surveillé dès les premières semaines, tous les dimanches en NFL. Parce qu'on a envie qu'il attrape des ballons, on a envie qu'il se montre, etc. Vu ce qu'a fait le papa en NFL et vu ce qu'il a fait, en tout cas en université.
Alors, je me permets de rappeler parce que tout le monde n'a pas les références et Marvin Harrison, mine de rien, ça commence à dater un poil et
Oui,
on a des
justement,
auditeurs qui
j'allais.
sont jeunes. Marvin Harrison, donc Hall of Famer des Indianapolis Colts, qui a capté des camions de ballons de Peyton Manning. Donc, c'est son fiston. On le voit sur l'affiche, 1m91, 95 kilos. Greg, qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel?
Ah, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il a de commun, en fait, parce que le truc, c'est qu'il sait à peu
Tout est
près.
exceptionnel.
Il sait à peu près tout faire. Bah, il a le gabarit pour être excellent en un contre un. Il a une capacité de tracé, de séparation qui lui permettent d'avoir toujours ce temps d'avance sur les defensive backs. Et puis, il a des mains globalement sûres. Il y a eu un petit trou d'air, on dirait, en 2023. Il y a eu quelques ballons un peu plus droppés. Mais en 2022, c'était un aspirateur à ballons. C'était vraiment la menace perpétuelle, le go-to guy, comme on dit, la cible prioritaire, en tout cas, de CJ Stroud à l'époque. Donc voilà, on sait que honnêtement, s'il arrive à nourrir une très très bonne connexion avec son futur quarterback en NFL, sauf problème de blessure, ce qu'on ne lui souhaite pas bien entendu, ça peut devenir vraiment, il peut transformer une attaque et la rendre véritablement létale. Donc c'est en ça, ou même dans une classe de receveurs à ses côtés, puisque c'est peut-être la position la plus forte, la plus profonde, la plus renforcée de cette classe, eh ben, c'est le joueur incontestablement où on se dit qu'il y a très très peu de points faibles et qui peut. Je m'avance clairement, je sais que tu as envie de ça là.
Oui.
On parle d'un potentiel pro bowler dès sa saison rookie.
Ça, c'est léger. Tout le monde est pro bowler, Taylor
On
Huntley.
va
On parle
dire
d'un potentiel
all
all
pro, all
pro.
pro,
Voilà,
all
all
pro,
pro, ça,
all pro.
tu préfères all pro.
Voilà. Alors, moi, ma
Voilà.
question suivante, parce que pour le coup, on avait quand même beaucoup entendu parler de lui. À l'échelle all-time aussi, parce que là, vous me parlez d'un mec qui peut être all-pro dès la première saison. Donc, c'est quoi? C'est Calvin Johnson? C'est encore mieux que Calvin Johnson? C'est quoi?
Moi, je le compare souvent à Larry Fitzgerald. Je sais que tout le monde ne partage pas
Ouais.
ça. Je trouve qu'il y a des similitudes
C'est
dans son
bien.
jeu avec Fitzgerald.
C'est déjà bien. Il pourrait être sélectionné par les Cardinals parce que visiblement, ils ont le choix 4 et
Tout à
c'est
fait.
les seuls qui ont un quarterback
Tout à fait.
à ce moment-là. Donc, est-ce que ce serait un. Enfin, là, pour le coup, Kyler Murray, il se régalerait, si je comprends bien derrière. Ça lui changerait
Ah
la
bah
vie.
ce sera déjà le meilleur receveur de l'effectif avant même qu'il ait joué.
C'est
Donc,
ça.
voilà, je pense que clairement, Marvin Harrison Jr. Va être un joueur qui va faire le bonheur de beaucoup de quarterbacks. Bah, en tout cas, Kyler Murray, peut-être, hein, on verra bien, mais oui, c'est un joueur qui a quand même fait 2 saisons universitaires productives avec un quarterback qu'on connaît très bien, donc CJ Stroud, qui est aujourd'hui au Texan, et un quarterback qui était moyen. Et il a fait les mêmes statistiques. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un facteur pour me dire que c'est vraiment un joueur, qui peut être exceptionnel.
Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il y a Trémoche qui est vraiment pas d'accord avec vous sur le chat qui dit Marvin Harrison, All Pro, première saison, vous avez fumé quoi? Bon, apparemment, écoute,
Il n'y a droit de
il
pas
y a
être
des avis
d'accord.
divergents, mais c'est la beauté du processus draft. Donc, la position la plus profonde, j'allais te demander, Greg, tu l'as répondu, c'est receveur. On va donc passer un petit peu du côté de la défense, parce qu'on n'en a pas encore parlé quand même, mine de rien. C'est qui le meilleur joueur défensif?
Là,
Ah,
je
là, il
pense
y
qu'on
a
aura.
plus débat, non?
Ouais, là, je pense qu'il y aura peut-être débat.
Vas-y.
Moi, si j'ai un. Voilà, moi, j'ai un. Ouais, moi, je pense que le meilleur défenseur, c'est un cornerback. Il joue pourtant dans une division en université qui n'est pas très, très cotée. C'est Quinion Mitchell, le cornerback de Toledo, qui est un joueur qui est très discipliné, qui est un playmaker défensif. En tout cas, on va dire dans l'ensemble des joueurs défensifs, c'est lui en tout cas que je préfère parce qu'il est athlétique, il est explosif. Franchement, c'est un potentiel All-Pro. Peut-être pas dès sa saison rookie là, par contre, mais c'est un très bon cornerback extérieur qui peut être titulaire dès la première semaine.
C'est pas du coup le meilleur joueur défensif, c'est pas Dallas Turner ou Jared Verse
Bah moi,
ou
Dallas Turner, c'est mon joueur défensif.
voilà, parce que il est plutôt bas le mec. Dont... Je prends en référence la dernière mock draft qui a été publiée sur le site par Alex Locke. Le gars dont tu me parles, je le vois pas apparaître.
Alors, je crois
Ok.
qu'il est plus bas. Ouais, il est.
Alors concrètement, faut aussi expliquer un truc, c'est que dans les projections, on dira dans le groupe global. C'est sûr que Quinion Mitchell, ce n'est pas celui qui sort le plus du lot aussi parce que je parlais du poste de receveur qui est le plus profond de la draft. Pour moi, le poste de corner, c'est le poste le plus profond de la classe défensive.
D'accord.
Donc, ça peut aussi amener à se dire, bon, bah, pourquoi on se précipiterait forcément sur un corner alors que derrière, pour les équipes qui en ont besoin, il y a quand même la possibilité d'aller chercher peut-être 4, voire 5 corners facilement dès le premier tour. Après, l'histoire nous a appris au cours des années qu'il y a toujours une équipe qui a un crush sur un cornerback dans le top 10. Et même quand c'est plus ou moins surprenant, hein, il y en a
Et
très
c'est
peu, je pense, à l'époque, qui voyaient J.C. Horn dans le top 10 quand les Panthers sont sélectionnés. Quinion Mitchell peut faire partie, pardon, de ceci, alors qu'on l'envisage plutôt aux alentours du top 15, top 20 à l'heure actuelle.
Et c'était le cas tout simplement l'an dernier de Devon Witherspoon, qui
Aussi,
était
okay.
sélectionné par les Seahawks en 5e position
Exactement.
et qui nous a un peu fait sourciller.
C'est une draft pas profonde en défense parce que quand on regarde la mock draft, et c'est revenu aussi plusieurs fois dans les observations ces dernières semaines, apparemment ça va être un premier tour ultra offensif.
Bah, c'est aussi lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que malheureusement, il y a des positions qui ont aussi pâti du retour de beaucoup de joueurs en universitaire. Linebacker, safety, il y a très peu de joueurs qu'on envisage aujourd'hui, pardon, sélectionnés au premier tour. Tu as peut-être, si je cite un ou deux noms, tu as peut-être Adrien Cooper, le linebacker de Texas A&M. Tyler Nebbin également, qui fait peut-être office de meilleur safety du plateau, meilleur safety pur, hein, j'entends, parce qu'il y a beaucoup de corners un peu
Hybride,
hybrides,
ouais.
par exemple. Voilà. Donc peut-être ces deux joueurs-là, mais vraiment, c'est des positions qui sont assez dévaluées. Et comme on n'est pas non plus sur les edge rushers, il y en a sûrement pas mal qui vont être sélectionnés dans le top 15. Là encore, comme pour les receveurs, derrière, il peut y avoir un certain gap. Donc, c'est peut-être pas une classe aussi profonde que ça. Et donc, forcément, bah, en comparaison avec l'attaque où on parlait des quarterbacks, où on peut avoir au moins 5 joueurs sélectionnés au premier tour, receveur, ou malgré tout, il y a quand même
Par
un nombre de
exemple,
biens assez conséquent. C'est sûr qu'il risque d'y avoir un petit écart entre les deux côtés du ballon.
Alain, pour revenir sur la QV de receveur, ça m'étonnerait pas, par exemple, qu'au deuxième tour, il y a beaucoup d'équipes qui se jettent dessus parce qu'ils ont sélectionné un autre joueur, c'est-à-dire un joueur défensif au premier tour. Et donc, ce sera la folie au receveur.
Très bien, donc encore une fois, je regardais sur le chat, il y a des traumatismes au niveau des cornerbacks, je reviens sur les cornerbacks dont vous parliez. Rappelez-vous d'Eli Apple dans le top 10,
Oui.
Jeff Okuda dans le top 10,
Top 3
top
même.
3 même. Oui, il était très très haut,
<Ouais.
Jeff Okuda. Donc voilà, il y a beaucoup de traumatismes. Il y a question de Guigui Twig, combien de coureurs au premier tour? Allez, je prends des questions de
Ah,
temps en temps en vrac.
allez.
Entre 0 et 0, il y Alors,
en aura combien? Non,
ça
peut y en
aussi,
avoir un ou pas?
c'est pareil. L'année où on a eu, je crois que c'est Najee Harris et Travis Etienne, qui ont été tous les deux
Ouais.
sélectionnés au premier tour. Est-ce qu'on attendait les deux? Je ne sais pas, même si c'était quand même très très bien coté. Par contre, l'année dernière, on n'attendait certainement pas deux running backs draftés dans le top 15 avec Bijan Robinson et Jahmyr Gibbs. Bijan Robinson s'y attendait un petit peu, mais Jahmyr Gibbs dans le top 15, en tout cas, ça fait sourciller pas mal de personnes. Donc c'est toujours pareil. On est sur une classe où, très honnêtement, il n'y a pas un coureur qui arrive avec un profil très calibré pour être un gros porteur de ballon. On est dans une NFL qui sollicite énormément les comités, et en college football, ça n'a pas fait exception à la règle avec les joueurs qui globalement se présentent cette année. Il y a peut-être une exception qui serait Trey Benson, le joueur de Florida State. Mais il y a aussi un gros historique de blessures pour beaucoup de joueurs qui, je pense, va freiner pas mal de franchises et va les amener à se dire, bah, après tout, pourquoi se précipiter? On peut attendre le deuxième jour. Donc pour répondre à ta question, oui, il y a quand
Voilà.
même une forte probabilité pour qu'il y ait zéro coureur cette année, mais attention, sait-on jamais, peut-être vers le 30e, 31e choix, il y a peut-être une équipe qui va se dire YOLO les gars.
Retrouvez Greg en campagne pour les législatives dans quelques années.
C'est toujours important de contextualiser.
Eh bien écoutez, après ces 14 minutes à noyer le poisson, la réponse est non.
C'est toujours important de contextualiser.
Moi,
J'aime
j'aurais fait une
beaucoup.
simple réponse, non.
Oui, voilà,
Alors,
c'était ce que j'attendais, pour être honnête. C'était ce que
un
j'attendais.
rappel historique n'a fait pas de mal.
C'est vrai que Luc rappelle sur le chat, mine de rien, qu'il y a beaucoup de running backs qui ont signé à la Free Agency cette année. Ça a un peu bougé avec tes Derrick Henry,
Des gros
etc.
contrats plutôt.
Ouais, en plus des
En plus. Mais il
contrats
y a aussi des
plutôt
équipes
valides.
qui n'ont pas des quarterbacks sur le papier démentiel. Je veux dire, les Cowboys aujourd'hui ont Royce Freeman, les Raiders aujourd'hui ont Alexander Mattison. Hein, donc, bon, c'est aussi en ce sens-là que je préfère préciser ça.
Allez, je regarde un peu dans le chat. Trerades, quel est le joueur pour lequel les suiveurs s'enflamment trop? Le nom qu'on va entendre pendant les lives là, que vous allez faire, mais auquel vous.
On
Voilà.
pense au même, Aniti, hein, non?
Vas-y, dis le tien et je confirmerai, je pense, à mon avis.
Le joueur sur lequel il y a une grosse hype, c'est ça ta question?
Le joueur sur lequel
L'enflammade,
les
ouais.
observateurs s'enflamment trop. Bah, DJ McCarthy.
Ah, forcément, bah oui.
Bah,
Oui, pareil, même
c'est.
réponse, ouais. Ouais.
Ah bah c'est intéressant. Alors c'est un quarterback qui est attendu dans le top 5. Vous trouvez que.
Bah, c'est un quarterback qui est attendu dans le top 5. C'est le quarterback de l'équipe qui a été championne nationale cette année. Sauf que c'est un quarterback qui s'est quand même énormément appuyé sur son jeu au sol ces dernières années. Et il y a une stat que les Américains aiment marteler à raison. Hein. Encore une fois, on va dire oui, il y a un côté winner parce que en 2 ans de campagne universitaire, je ne sais plus c'est quoi, c'est 38-1 son bilan, quelque chose comme ça.
Ouais, une seule défaite,
Voilà,
c'était en demi-finale.
Exactement, c'est une seule défaite quand il a été titulaire de Michigan au cours de son cursus universitaire, avec, je le disais en conclusion, le titre gagné par les Wolverines à l'issue d'une finale où il a quand même été assez solide, globalement, même s'il a encore, c'est le jeu au sol qui a fait une grosse partie du boulot. Là, très clairement, je parlais des joueurs un peu vieillissants qu'on a tendance un petit peu à négliger, entre guillemets. Là, on est clairement sur le jeune loup. On se dit, oh là là, attention, qu'est-ce qu'on peut avoir entre les mains? Bah, peut-être que vous allez rien avoir.
Est-ce
Donc ça, malheureusement, ça risque.
que je m'avance si je dis que c'est dans le même moule que les quarterbacks blancs gestionnaires de grosses équipes qui gagnent des titres qu'on nous vendait à la Mac Jones, à la AJ McCarron, et on disait oui, mais ils gagnent.
Bah justement, Alain, bah justement, c'est là où est le plancher de JJ McCarthy. C'est Mac Jones. C'est typiquement ça.
Ah, le plancher,
Ouais,
pardon,
le
parce que tu parlais
plancher,
de la
non. Ah
cheville,
non, pas le
pardon.
plafond. Ah
Pardon,
non, non.
pardon,
Ah, quand
pardon,
même
pardon,
pas.
pardon,
Ah, quand
ouais.
même pas. Non, non, le plafond, là, par contre, j'ai du mal à l'identifier parce que tout simplement, l'échantillon qu'il a montré est léger. En fait, on sait pas ce qu'on a avec lui, comme le disait Greg. Et en même temps, ce qu'il a montré, tu te dis, ah, il y a quand même quelques interrogations. Tu vois, par exemple, la précision des passes lointaines, c'était pas trop ça. Enfin, en tout
Mais alors
cas,
attends,
de ce
dans
que
point
j'ai.
faible, je vois précision et mobilité. Donc c'est
Ouais.
clairement un Mac Jones et Jay McCarron, quoi. C'est un grand blanc qui lance le ballon dans la poche, quoi.
Après, il y a point faible et point perfectible. C'est toujours un petit peu pareil. Voilà. À mon sens, je ne trouve pas qu'il ait non plus des défauts énormissimes. Mais comme l'a dit Nitti, est-ce qu'après, il a vraiment des points forts sur lesquels tu te dis waouh, par rapport à tel quarterback, vraiment, il va révolutionner la ligue? J'en suis pas sûr. J'irai pas jusqu'à dire plancher. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça fait écho à une équipe qui peut potentiellement être intéressée pour le drafter. On peut avoir un profil à Eli Manning. Hein.
Ouais,
Un joueur qui
non, c'est
va,
vrai.
sans faire toujours des saisons sensationnelles, va beaucoup s'appuyer sur son jeu au sol. Et peut-être que, bah, avec un mental qui est plus solide que ce qu'on peut croire au premier abord, et bah, il va réussir à renverser des montagnes sur certains moments. Mais là, à l'heure actuelle, oui, pour répondre clairement à ta question, c'est sans doute le joueur sur lequel beaucoup de personnes s'enflamment et qui là aussi est aussi clivant.
Donc moi je suis là pour synthétiser, on rappelle Caleb Williams c'est le futur Patrick Mahomes, JJ McCarthy il est gaze, on enchaîne, on enchaîne.
Ne t'étonne pas si JJ McCarthy devient Mac Jones 2.0, hein, ne t'étonne pas, ça
Oui,
c'est
bah
sûr.
écoute, peut-être que ce sera aux Patriots aussi d'ailleurs, hein, on ne sait jamais.
Ah, ça c'est ma grosse cote ça.
Ça c'est l'une des grosses cotes de la draft. Ils prennent JJ McCarthy et là la draft peut s'enflammer.
Ah, ce serait incroyable parce que ce serait vraiment le changement sans changement, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tout changé pour faire la même chose. Je remonte un petit peu dans le chat. Alors apparemment, Jean-Michel a beaucoup défendu JJ McCarthy, donc ça va se friter en direct, si je comprends bien, puisque même dans le chat, là, tout le monde
Bon, en tout
en
cas,
appelle à Jean-Michel, hein.
très clairement, je le dis, je fais un petit teasing pour le direct, je pense que Jean-Michel essaiera de défendre coûte que coûte, ou en tout cas aura un peu plus d'arguments en faveur de DJ McCarthy que Victor. Je m'avance peut-être en disant ça, mais pas
Je pense que
trop.
là, il y aura un débat dans le débat, ça c'est
Ouais,
certain.
c'est possible. Ça va revenir à peu près à cette question. Alors, vous allez me dire si c'est JJ McCarthy ou pas. Moi, je voulais vous demander, et c'est revenu un petit peu aussi, quel est pour vous le joueur annoncé au premier tour? Ça revient un petit peu au hype, hein. Mais ça peut aussi être un avis personnel. Quel est le joueur annoncé au premier tour qu'il faut absolument éviter? Alors, moi j'ai
Bonne
bien un nom
question.
en tête. Moi, il y a un joueur qui me
Ah, si,
fait.
moi j'en ai un. Vas-y,
Bah vas-y, donne
vas-y.
le premier, vas-y, tu
Ah,
l'es, vas-y.
ouais, si, moi j'en ai un. Alors, ouais, il est peut-être pas attendu au premier tour, mais enfin, si. La plupart le voient au premier tour, en tout cas, pour certains. Je vais encore aller au cornerback. Poulet de McKinstry, pour moi, me fait un peu peur,
Ah, on parlait de la team jeu de mots et des noms.
même
Alors,
si le
poulet, lui,
nom fait.
c'est.
Ouais, voilà, donc ouais, il y en a un qui peut me faire peur, c'est Kool-Aid McKinstry, parce que pour moi, il a encore beaucoup assez perfectible dans son jeu, en tout cas défensivement. Le potentiel athlétique, il est là, mais est-ce que le QI football va s'améliorer? Ça, c'est pas sûr.
Alors, pour petite précision quand même, pour les gens qui se demandent pourquoi le mec s'appelle Cool Head, puisqu'on rappelle quand même que
C'est pas son vrai nom.
voilà, c'est pas
Non,
son vrai nom. Il
c'est vrai,
s'appelle
c'est vrai.
Jack Quincy McKinstry, mais son surnom c'est Cool Head, qui est
Ouais.
le nom d'une boisson énergisante, si je dis pas de
C'est
bêtises.
ça,
Tout à
c'est
fait.
ça, c'est ça, c'est ça.
Ah non, attendez, Cool Head est une marque d'un mélange de boissons artificiellement aromatisées.
Oui,
Ah oui, c'est les
c'est
trucs en
ça.
poudre horrible là qui.
Bah,
Ok.
je sais pas, je t'avoue que j'ai pas trop étudié la question.
Je crois que c'est des trucs en poudre que tu fous dans la flotte. Ça a été créé il y a 97 ans, figurez-vous. Donc voilà. Donc bref, donc c'est une boisson
Magnifique.
et il s'appelle comme la boisson qu'il aime bien, parce que pourquoi pas, hein, tu vois. Donc Grégory, est-ce que tu évites Kool-Aid McKinstry?
Alors, moi, je suis un peu moins. Je sais que là aussi, ça divise beaucoup Kool-Aid McKinstry. Moi, personnellement, j'aime bien. Mais après, voilà, les avis divergent. Il y a un autre joueur qui a un prénom et un surnom très sympa, sur lequel j'ai beaucoup plus de réticence. C'est Chop Robinson. le pass rusher de Penn State, qui s'appelle donc comme ça parce qu'il ressemblait à une côtelette de veau, une côtelette de porc, pardon, selon ses proches à la
Je préviens que
naissance.
la question, c'était pas donner les meilleurs noms. Hein.
Ouais,
C'était vraiment
non, mais voilà.
dire Il y a une
C'est pas
certaine
vraiment un
logique,
lien.
c'est-à-dire que je sens que vous vous tenez à l'écart des noms pourris.
Non, mais alors, Chubb Robinson, il y a un vrai point d'interrogation d'un point de vue production. C'est typiquement, et ça va reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est typiquement le genre de joueur où on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on peut en faire de ce joueur? Ça va être un phénomène. Et en fait, bon, en fait, on n'a pas réussi à en tirer grand-chose. Et il a vraiment un potentiel athlétique assez démentiel. Je pense que c'est un des tout meilleurs athlètes de cette classe. Mais j'ai l'impression que d'un point de vue technique, j'irais presque QI foot, si je veux être un peu méchant. J'ai quand même l'impression qu'il y a des situations où il va rester englué dans les lignes offensives et où au final, ça va juste être un joueur de rotation, un joueur vraiment situationnel qui va être utilisé peut-être sur des phases de blitz ou ce genre de choses. Mais franchement, on l'annonce top 15 parce que forcément, c'est le phénomène physique qu'il est. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à me dire qu'avec ce que j'en ai vu du côté de Maryland et de Penn State, notamment à Penn State où il a été quand même dans une grosse défense, j'ai quand même du mal à me dire que il n'a pas réussi à proposer plus que ça, quoi.
Par
Il y a encore des...
exemple, pour
Vas-y.
terminer sur Chop Robinson, son plancher là, c'est Clelin Ferrell, le joueur de San Francisco
Qui est
49ers
titulaire
aujourd'hui.
aujourd'hui en NFL, hein, a priori.
Voilà.
Oui,
Mais bon,
mais bon. On n'attendait plus, c'était qu'une numéro 4 de la draft à
c'est
l'époque.
ça.
Voilà. J'allais
Voilà.
demander si il y a encore des joueurs qui n'ont fait qu'une fac, parce que là tu disais oui, alors il a fait une bonne saison là, et puis il a fait une bonne saison là, et puis après il a fait trois
Il y
bonnes
en a, il
semaines
y
à
en a,
cet
il y en a, il y en a.
endroit-là. Et puis c'était pareil avec Caleb Williams, parce que tu parlais d'un joueur de USC, et puis à un moment tu dis oui, mais un tel à Oklahoma State ou à Oklahoma a joué après Caleb Williams,
Mais
donc.
c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Baker Mayfield en 2018 avait fait deux universités. Kyler Murray un an après avait fait deux universités aussi. Les
Ça s'est un poil
meilleurs joueurs
accéléré, tout ça,
universitaires
quoi.
ces dernières années sont souvent issus de transferts. Et c'est pas d'aujourd'hui non plus. Hein. Cam Newton en
Cam
2011,
Newton
alors,
et
Cam Newton en
Florida, ouais.
2011 après avant Auburn pardon, a fait Florida en effet.
Il a côtoyé Tim Tebow aussi?
Oui, il était remplaçant de
Oui,
Tim Tebow.
oui,
Ouais.
oui.
Incroyable, incroyable. J'aurais payé pour voir cette rencontre. Ça devait être. J'aurais bien aimé être à la cantine pour voir un peu ce qui se disait. Donc, Chop Robinson a évité pour Gregory Richard. Pour vous situer, il était 29e dans la mock draft d'Alex sur le site. Et Cullen McKinstry, il était 23e Je pense
pour
que
la.
Robinson sera plus haut. C'est l'avis d'Alex. Et
C'est l'avis d'Alex.
tout. Ouais, je pense qu'il sera plus haut.
C'est l'avis d'Alex, en effet. Qui a un potentiel de fou, genre vraiment le potentiel le plus dingo, mais qui
Ah
est
bah,
vraiment un pari, quoi.
t'as ma réponse.
À Chop Robinson aussi, du coup.
Bah oui, bah
Ok,
ça, en termes de
d'accord.
potentiel de ouf, je pense que c'est celui qui fait le fantasme le plus de genre.
Très bien. Nitti.
Moi, c'est Cooper de Jean.
Ah,
Cooper de
alors,
Jean,
ils en parlent énormément
ouais.
sur le chat depuis tout à l'heure. Il
Ouais.
fallait que j'y vienne à un moment. Très bien.
Ouais.
Pourquoi?
Bah, et bah Cooper de Jean, tout simplement. Bah déjà, il joue à un poste qui est cornerback, mais on ne sait pas trop si c'est en NFL, ce sera un safety ou un cornerback. Donc déjà, rien que la polyvalence, pour moi, c'est un atout quand tu veux jouer en NFL. Mais pour moi, il a les qualités pour jouer à l'extérieur, il a les qualités pour jouer à l'intérieur, et surtout, c'est un joueur qui peut potentiellement être pas une star, mais vraiment le joueur solide qui va être titulaire pendant plusieurs années, car sa vie, en tout cas, est dédiée au football, quoi.
Je sens qu'il y a des jeux de mots sur le chat, je sais pas pourquoi.
Ben, je sens que Bill Swersky me demande si justement Cooper Dejean me plaît niveau jeu de mots. Donc j'essaie d'imaginer des trucs, de jambes dans son jardin par exemple, ça peut être pas mal ou des choses comme ça. On va y
Pense qu'il y en a beaucoup
réfléchir,
qui
mais.
l'imaginent aux Niners hein, pour jouer au Levi Stadium par exemple.
Voilà.
Ah ouais, pas mal. Oui, Jean, oui, John, oui, bien vu.
Ouais,
Oui, Billy Dejean aussi,
c'est ça.
c'est pas mal. Il y a des trucs, mais il y avait Joe Alt hein, dont on n'a pas encore parlé aussi, qu'on a un peu jeu de mots dans le titre. Donc oui, mais oui, encore une fois, il revient beaucoup hein, sur le chat depuis le début de la soirée, Cooper de Jean. Donc, comment tu prononces?
De Jean.
De
De
Jean.
Jean.
Moi, je
Ouais,
dis
tout à
Jean, mais après, c'est vous qui voyez.
fait.
Voilà,
Ouais.
Jean.
Ouais.
Ok, très bien. N'hésitez pas à remettre des questions un petit peu dans le chat. Tac, tac, tac. C'est une excellente draft pour les jeux de mots in fine, dit Bill Swersky, mais
Ah ça, ouais.
toutes les drafts sont assez riches, hein, quand même. Gros. Bon, après, on n'a pas des Michael Penix tous les ans, hein, ça c'est sûr
Bah là, on
que.
va dire que les premiers tours sont propices au jeu de mots.
C'est vrai.
Ça, c'est certain.
C'est vrai que.
Il y a eu rarement lors des dernières années, je n'ai pas le souvenir.
Donc les potentiels de fou. Alors tiens, allez, c'est l'actualité. On n'a pas encore parlé de ça, tiens. Lequel des joueurs attendus au premier tour, s'il y en a un, je ne sais pas, va prendre une Lamborghini et rouler à 240 sur l'autoroute dans les années à venir? Parce que je trouve que c'est une draft assez calme en dossier
Joueur
cette
du premier
année.
tour, t'as bien dit, hein.
Non, n'importe, allez, fais-nous
Ah,
rêver,
si,
fais-nous
si, là, il y en
croire.
a. Ah, là, il y en a.
Parce qu'on
Non, je pense
rappelle
qu'il y en
qu'on
a.
part sur. Il y avait eu des années. Comment il s'appelait ce prospect que j'adorais d'Ole Miss qui avait sauté d'un balcon dans une piscine?
Les coins de Treadwell. Non, non,
Ouais,
c'est pas Treadwell,
non. Non,
c'était
c'est.
Nkemdiche qui avait sauté dans la
Voilà.
piscine.
Ah,
Robert
oui, si,
Nkemdiche,
c'est.
lineman
Oui, c'est ça.
défensif. Voilà.
Ouais. Ah, oui, si.
Très grande cuvée d'Ole Miss
Ah, bah, Ole
cette
Miss, entre
époque-là.
Treadwell et Nkemdiche. Et on rappelle que la même année, il y a Tonsil avec son.
Et
Et voilà,
voilà,
avec
avec
Okongwu en son
la
masque.
fumée,
Les
ouais.
trois d'Ole
Donc,
Miss, ouais.
faites-nous un peu rêver là. Qui va se faire gauler avec un bong juste avant la draft? Qui va rouler à 240 sur l'autoroute?
Ah, je sais pas, tu vois quelqu'un là, Niki?
Il cache bien leur enjeu. Mais sinon, il y avait
Un
l'exemple, tu sais,
receveur,
bon.
forcément.
Alors, potentiellement, s'il y a un poste de receveur, hein, qui peut avoir un comportement un peu bizarre, ça pourrait être Keon Coleman.
Alors lui, il doit
Ah.
sortir quand et à quel niveau? Enfin,
Deuxième tour. Deuxième
ouais,
tour,
fin premier, début
fin
deuxième, je
premier, ouais,
pense. Ouais.
voilà.
Ah, donc c'est le nouveau Rashee Rice, quoi.
Ouais.
Oh, je sais pas, il y a un historique sur Keon Coleman?
Bah, il a quelques petites histoires de comportement après, mais je sais pas,
Ouais, je sens que c'est une
franchement.
QV. Je sens que c'est une QV légère quand même, parce que là, vous me sortez pas de dinguerie, tu vois, à l'époque,
Ouais,
Florida et tout
bah,
ça, il y avait quand même, il se passait des trucs,
il
quoi. Il y a
y a.
sûrement quelque chose qui m'échappe, moi, mais
Il y a
faut que je retrouve les noms, hein.
Jermaine Burton, hein, de Alabama, qui a un comportement un peu de.
Ah oui, vient
Voilà.
de, il y a Victor Roulier qui vient de débarquer dans le chat en écrivant
Ouais.
Jermaine Burton, point d'exclamation, le casos ultime.
Ah ouais? Ah d'accord. Bon, bah, écoute, je suis passé à côté de
Alors,
deux, trois
voilà.
trucs alors.
Mais sinon, en termes généraux, il y avait Tevondre Sweat qui a fait une petite dinguerie il y a quelques jours, là,
Le
avant la
sens du
draft, là.
timing.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il a
Le bon
fait?
sens. C'était quoi déjà?
Excès de vitesse?
Excès de vitesse, voilà.
Ah,
Excès
excès
de
de vitesse.
vitesse. Bon, voilà. C'est juste lui. Mais c'est vrai que pour le moment, là, il n'y a pas un profil. Alors, j'ai mentionné Keon Coleman, mais c'est peut-être un peu dur pour lui. Mais non, sinon, je vois pas. Ils font attention, hein, quand même. Hein. Maintenant, cette QV, elle fait un peu attention à ce qu'ils font. Tu sais, avec les réseaux sociaux, ça peut aller très, très vite.
Ah bah les conseillers en com sont un peu différents maintenant, c'est
Voilà,
vrai.
c'est ça. Et puis, comment dire, on va dire que les remarques sur le comportement, ça reste maintenant en interne. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont prévus au premier tour,
Bah,
qui ne vont pas être pris, justement, et peut-être à cause d'un problème de comportement qu'on a
Ah oui, ça fuite
probablement
pas.
pas vu. Voilà.
Ça fuite pas. Apparemment, Sweat, c'était conduite sous l'emprise de l'alcool et cannabis dans le coffre, selon le chat. Je
Oui,
m'en
c'est vrai que
réfère
ça
au
aide
chat.
aussi. Ouais. Ouais, il y
Ouais,
avait ça.
je m'en réfère au chat. Olerm nous demande l'écart de niveau entre la NCAA et la NFL est-il si important puisqu'il y a beaucoup de busts chaque année et il se demande si la draft, c'est pas surtout faire fantasmer les fans. Pourquoi, en effet, il y a beaucoup de busts? C'est normal, vous êtes très positif, vous les suivez, donc la couverture pré-draft est souvent très positive, mais on voit aussi, quand on prend le recul, et ça a été une semaine significative avec l'échange de Zach Wilson aux Broncos, quand on reprend la QV de Zach Wilson, où il n'y a que Trevor Lawrence du premier tour qui est encore en place, et que derrière, il y a eu Trey Lance, il y a eu Mac Jones, il y a eu Zach Wilson, qui ont tous été échangés depuis et qui sont tous des échecs quand même plus ou moins monumentaux. Qu'est-ce qui se passe entre la NCL et la NFL pour ces joueurs-là qui réussissent pas?
Bah, alors, déjà, je trouve que c'est très vague et très large parce que qu'est-ce qui fait que des joueurs sont des busts? Alors, déjà, tout dépend de quelle université ils sortent parce que faire le comparatif entre le college football et la NFL, c'est déjà, il y a déjà deux mondes dans un même monde en college football, entre notamment les universités de ce qu'on appelle le Power Five, les principales conférences, enfin, ce qu'était le Power Five, parce que ça a changé depuis, mais en tout cas, on va dire les plus grosses universités et forcément celles qui sont un peu moins en vue. Pour répondre à ta question, moi je trouve qu'on occulte un peu trop souvent parce que je pense que beaucoup ont cette vision un petit peu biaisée de la draft comme quelque chose de presque un loto sportif. C'est-à-dire, tiens, on va faire des pronostics, etc., etc. Et malheureusement, c'est pas que ça. Et c'est vrai qu'on regarde souvent, on considère souvent a raison, le talent intrinsèque du joueur, mais c'est aussi important de s'intéresser à qui le prend, dans quel contexte on le met. Moi, ça m'amuse toujours quand je regarde des drafts, on va dire 3 à 4 années plus tard, avec des gens qui te martèlent une réalité en te disant, tiens, tel joueur a été drafté 10 places plus bas, mais il n'a pas eu la même carrière. Il est peut-être arrivé dans une équipe aussi qui forcément était mieux classée dans la draft parce qu'elle était mieux organisée tout simplement et que bah il y a des il y a un entourage, un coaching qui lui a aussi permis de corriger certaines failles qui étaient présentes dans son jeu. On lui a peut-être laissé un petit peu le temps de mûrir. Enfin, je sais que par exemple Vitor en parle beaucoup, mais le fait par exemple qu'aux Eagles on laisse souvent une année par exemple d'apprentissage au rookie, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres équipes, bah, je pense que ça joue énormément dans le rendu final de pas mal de joueurs, et c'est pas totalement un hasard si les Eagles jouent souvent les premiers rôles ces dernières années aussi en NFL. Donc c'est vrai que voilà, ce qui peut aussi expliquer le potentiel bust, au-delà bah, de l'aspect mental de l'exigence et de l'hygiène de vie qu'il faut forcément avoir, parce que voilà, c'est forcément faut contrôler énormément de paramètres, ses entraînements, son poids de forme, enfin il y a énormément d'impératifs qui rentrent en ligne de compte, et faut avoir un gros mental quand on arrive en NFL pour adhérer à ça malgré tout. Mais il ne faut pas non plus occulter l'entourage et l'environnement dans lequel on met ces joueurs-là pour vraiment en tirer le meilleur possible.
Il y a plusieurs facteurs effectivement à prendre en compte, hein. L'environnement, l'équipe, le contexte dans lequel il atterrit. Par exemple, le meilleur exemple, c'est tout simplement la draft de l'an dernier. CJ Stroud, il tombe dans un contexte hyper favorable. Il y a un nouveau coach, il y a une nouvelle philosophie. Donc, c'est la philosophie que veut incarner DeMeco Ryans et le nouveau coordinateur offensif des Texans. Bryce Young, il arrive dans un environnement où il y a déjà un coach, il y a déjà un playbook façonné par Frank Reich. Et malheureusement, Bryce Young, il doit apprendre les jeux offensifs que confession Frank Reich. Alors que justement, CJ Stroud, je pense que ce n'est pas le cas. C'est on va te donner les systèmes pour toi pour que tu brilles. Tu as des receveurs à ta disposition. C'est à eux de faire le travail, etc. etc. Bryce Young, on a vu ce que ça a donné avec Carolina. On a vu aussi que le comité de receveurs n'était pas terrible non plus.
On a
Donc
vu
c'est
aussi
pour ça.
on a vu qu'il y avait des atermoiements sur la simple désignation d'un coordinateur offensif. Enfin, ça, encore une fois, quand tu as quarterback rookie.
Voilà.
Mais je veux pas résumer ce que tu dis, Niki, parce que tu n'avais pas fini ton propos. Mais moi, c'est juste, encore une fois, sur cet exemple-là, moi, personnellement, je pense que tu es d'accord avec moi. L'idée, ce n'est pas de dire que Young, sur le papier, est meilleur que Stroud.
Ah ouais, ah oui,
Sans
non,
doute
bah justement.
qu'intrinsèquement, Stroud était bien entendu meilleur que Young. Mais je ne pense pas qu'il y ait un gap aussi important où, à
Non.
l'issue d'une année, comme on martèle souvent en NFL, on va dire, bon, bah, Bryce Young, bust. On va en attendre
Voilà.
un petit peu plus. CJ
C'est
Stroud
ça.
a confirmé qu'il avait le talent qu'on espérait de lui. Bryce Young, malheureusement, il y a peut-être aussi d'autres événements, d'autres éléments personnels et au niveau de l'entourage qui ont très sérieusement compliqué ça.
Quel est votre joueur préféré à chacun? Un joueur. Genre, vous êtes manager d'une équipe, vous savez, on vous donne un choix qui compte pas et genre vous pouvez le prendre tout de suite. Voilà. Qui vous prenez direct et que vous avez envie d'avoir dans votre équipe, Nitinia?
Ah, j'hésite. Alors, on a déjà parlé de lui, hein, c'est Marvin Harrison Jr. Moi, j'ai un autre receveur que j'aime beaucoup, Romeo Dunze, le receveur de Washington. Très bon joueur que je suis depuis maintenant 2 ans, titulaire indiscutable, en tout cas de une des meilleures attaques de NCAA. C'est un receveur pourtant qui ne paye pas de mine, hein, vu comme ça. C'est un receveur, c'est un futur receveur numéro 1, en tout cas pour moi, parce qu'il est grand, il a les mains, il a ce contrôle du corps qui peut où il peut gagner facilement face à des cornerbacks un peu plus sous-dimensionnés, en tout cas en NFL, c'est ce qu'il y a parfois. Donc il est prêt, en tout cas, à jouer tous les dimanches. Mais moi, j'aime beaucoup ce joueur. Moi, j'aime bien déjà le poste de receveur déjà de base, mais lui m'a vraiment marqué.
J'aime bien parce que donc en fait il s'appelle Romé Odunze. Ouais,
C'est ça.
parce que je
Ah,
croyais, quand tu l'as dit, je croyais qu'il s'appelait Roméo Odunze.
je
Donc
t'ai dit,
l'espace est
les joueurs aujourd'hui sont des noms qui claquent, comme on dit.
pareil. Quand il va avoir des difficultés, on dira Romé ne s'est pas fait en un jour. Enfin, ça va
Ouais,
être
c'est ça. C'est ça,
très
exactement.
très bien. Je valide ce choix. J'espère que Greg, tu as du bon choix de patronymique également.
Bah, moi, mon choix, je l'ai déjà donné tout à l'heure. Moi, pour moi, si on demande de choisir, ce sera Marvin Harrison Jr. Si je veux changer. J'aime bien Brock Bowers quand même, tight end de Georgia, qui en plus sera une denrée, je pense, très recherchée parce que bah, cette classe de tight end, on va pas se mentir, c'est pas la folie furieuse. Il y a un ou deux profils vraiment en termes de joueurs assez complets. Après, on a plus affaire à une classe de joueurs un peu plus bloqueurs que vraiment axés sur la réception. Moi, j'aime bien prendre cette comparaison, mais pour moi, on est sur du George Kittle 2.0. Donc, c'est un joueur qui a été vraiment la force brute. On parle beaucoup de Ladd McConkey, l'autre receveur de Georgia qui grimpe beaucoup dans la hiérarchie ces dernières semaines. Brock Bowers, ça a été une valeur sûre le premier jour où il est arrivé à Georgia. Il a énormément contribué dans les deux titres nationaux qui ont été gagnés par les Bulldogs. Comme par hasard, bah, l'année où sa saison est un peu plus tronquée par les blessures en 2023, bah, malheureusement, Georgia a pêché un petit peu plus, surtout qu'il y a eu un changement de quarterback entre-temps. Mais c'est un joueur qui fait énormément de bien dans une équipe. Ce n'est pas un joueur qui va impressionner au premier abord. Ce n'est pas une armoire à glace, très clairement. Mais son travail sur le bloc, il le fait extrêmement bien. Et je le répète, c'est un joueur qui, dès qu'il a le ballon en main, peut être une vraie menace en yards après réception. Donc voilà, dans cette lignée des tight ends modernes qui jouent un grand rôle en NFL avec un rôle extrêmement hybride, je pense que Brock Bowers peut le faire à beaucoup d'équipes.
Je vais finir avec mes questions et puis après, comme ça, je repasserai sur toutes les questions du chat. Merci à Didier Metcalf dans le chat qui a offert 5 abonnements à la communauté. Merci à lui pour ses 5 abonnements. Bonjour à Master G qui vient de mettre son premier message dans le chat également. Qu'est-ce que je voulais vous demander de joueur préféré? C'est fait. Petite question sur la draft en général. On a parlé de la QV après le top 15 dans le premier tour. Ça s'éparpillait un petit peu. Juste pour le reste de la draft, en global vraiment, j'ai lu que c'était une draft plus faible, notamment sur la fin, et notamment parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient retournés à la fac, que les facs gardaient un peu plus leur talent ces dernières années, notamment parce qu'il y a un peu d'argent qui commence à circuler. Est-ce que c'est une draft en effet plus faible sur les derniers tours aussi, Nitinia?
Je vais pas te dire le contraire, effectivement. Il n'y a pas, par exemple, ce qu'on appelle des sleepers qui se dégagent, on va dire, à l'unanimité. Par exemple, moi, j'en ai, allez, seulement un ou deux qui peut potentiellement avoir une carrière en NFL. Évidemment, il peut y avoir des joueurs à la Puka Nakua ou d'autres joueurs qui peuvent être draftés au 5e, 6e tour et avoir une carrière, en tout cas une saison rookie déjà énormissime. Mais c'est vrai que déjà, je trouve qu'il y a un vrai écart entre les joueurs qui peuvent potentiellement partir dans les 3 premiers tours et les joueurs qui peuvent partir entre le 4e et le 7e tour. Il y a un vrai écart déjà de niveau actuel. Pour le potentiel, peut-être moins, mais dans le niveau actuel, il y a un vrai écart.
Grégory, tu partages visiblement.
Oui, pour avoir fait le top 20 journalier là, par position que vous pouvez retrouver sur le site à l'écrit, c'est vrai que il y a beaucoup de positions. Je me suis dit, c'est vrai à partir du top 10, commence à se dire, bon, alors lui, il peut être 11, il peut être 17, il peut être 18. C'est un peu, voilà, on ne sait pas trop exactement, ça joue vraiment dans un mouchoir de poche et ça insiste aussi sur le fait que, bah, à la fois, c'est une bonne chose parce que la hiérarchie n'est peut-être pas autant établie que ça, notamment dans la deuxième partie de tableau. Mais c'est sûr que bah, forcément, comme il y a beaucoup de joueurs en effet qui rempilent, bah, on a l'impression que le talent est beaucoup plus contenu, on dira, dans les premiers tours. Et c'est là où, en effet, ça va aussi rajouter pas mal de pression aux différentes franchises, notamment celles qui ont des besoins de quarterback. C'est qu'il va vraiment pas fa... il va falloir vraiment maximiser et optimiser chaque choix qui va être fait parce que, voilà, sorti du principe, ce joueur va être bon sur équipe spéciale, ce qui est souvent aussi la doctrine sur les derniers tours de draft, en tout cas sur le côté court-termiste. Après, sur le côté, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce joueur-là à moyen et long terme? Là, ça va laisser un peu plus sceptique.
On va passer aux questions du chat. N'hésitez pas à en mettre à partir de maintenant. On va essayer d'être réactif encore plus sur les questions du chat. Et moi, j'ai deux, trois petites questions que je me garde pour la conclusion sur Twitter ces derniers jours. Alors là, on va passer dans du vrac, hein. C'est des questions du tac au tac, messieurs. Et vous n'êtes pas obligés de répondre tous les deux. S'il y en a un qui est plus inspiré, vous dégainez. Qui pourrait proposer aux Giants un trade pour monter en 6 que les Vikings ou une autre franchise? Question de Monsieur I ou L, je ne sais pas si c'est une majuscule ou pas, sur Twitter. Qui monte en 6 à la place des Giants? Les Vikings?
Ah, qui monte en 6. Il
Ouais.
y a de grandes chances que les Vikings montent lors de cette draft. En fait, si ils ne montent pas, moi en tout cas, je serais déçu. Parce que s'ils ont cumulé 2 premiers tours, alors c'est parce qu'ils n'ont pas de quarterback, parce que Kirk Cousins c'est parti. Mais s'ils ne montent pas, je ne sais pas trop où ils vont. Voilà.
Après, forcément, tu as les Broncos et les Raiders, hein,
Aussi,
qui rentrent dans
aussi.
l'équation, mais les Raiders, ça a l'air d'être un petit peu plus sujet à. C'est un peu conditionné à Jaden Daniels, qui, pour la précision, a connu Antonio Pierce quand les deux personnes évoluaient du côté d'Arizona State. Donc, il y a que cette connexion qui pourrait se faire, mais j'ai pas l'impression que les Raiders, au-delà de ce profil-là, soient intéressés par un autre QB.
Très bon truc là, il connaît machin, il a déjà croisé trucs, etc. Quelqu'un en avait parlé un peu dans le chat en début de retransmission, dire les rumeurs de GM, les trucs qui fuitent. C'était est-ce que les équipes sélectionnent forcément les joueurs qui ont visité les installations, etc. Bill Belichick a dit sur ESPN, on fait fuiter les trucs vrais qu'à partir de 12 heures avant la draft. Quand on était dans les équipes.
Yeah.
Est-ce que en vrai, ça sert vraiment à quelque chose toutes les rumeurs qu'on voit sur là, t'as des mock drafts et des
Les
tableaux qui changent
rumeurs,
tous les 3 jours
non.
alors qu'il se passe rien.
Les rumeurs, non. Forcément, il y a des écrans de fumée constamment. Et c'est en ça que c'est aussi en ça qu'il faut faire le tri. C'est que bah, forcément, prendre pour argent comptant tout ce qui sort. Enfin, ne serait-ce que si on prend l'exemple des Patriots, je ne compte pas le nombre de fois où, au cours des 3-4 dernières semaines, j'ai vu. Bah, les Patriots vont trader leur choix, les Patriots ont pris leur décision pour le numéro 3, les Patriots vont faire un trade-up. Enfin, au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils faisaient tout et n'importe quoi à 2 heures d'intervalle. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre ça avec des gants. Après, pour répondre à ta question, notamment sur les visites, il y a des choses à renseigner, enfin, il y a des choses à en tirer et des choses où il faut se dire, bah voilà, ils font leur devoir, entre guillemets. Je crois que c'est Chris Ballard qui en parlait il y a quelques jours de ça. Il disait, de toute façon, jusqu'au dernier moment, il faut qu'on ait des informations sur tout le monde, puisque de toute façon, par définition, et on est assez bien placé pour le savoir, parce qu'en plus, on organise des mock drafts en amont avec échange. Et je peux vous dire que même nous, à notre très faible niveau, quand on fait ça pour le fun, on se rend compte que bah, n'importe quel scénario peut changer à n'importe quel moment. Donc forcément, c'est toujours bien d'avoir quelques billes supplémentaires si tu as un doute sur tel joueur. Même si tu te dis, il y a peu de chances qu'on l'ait, on n'est vraiment pas sûr que son profil nous intéresse, bah, tu vas quand même organiser une visite pour faire en sorte de le voir vraiment dans une situation bien
Oui, mais
précise,
ça, c'est
même
leur
s'il y a
boulot.
10% de chances que tu le
Oui.
récupères. Mais malgré tout, si tu regardes au fil des années, il y a quand même très souvent des joueurs qui sont sélectionnés par les équipes et tu te rends compte que ces joueurs-là ont fait des visites. Alors après, dans quel contexte? Est-ce que c'est des visites physiques? Est-ce que c'est juste des entretiens pendant les combines, pendant les Senior Bowl, etc.? Mais il y a toujours eu interaction avec au moins un ou deux des joueurs sélectionnés par les équipes pendant la draft.
De toute façon, pour terminer, les joueurs. On va dire, ils communiquent avec les dirigeants, ils communiquent
Ah
avec
oui.
les agents. De toute façon, c'est obligatoire. Il faut ce qu'ils appellent les top 30 visites. Il faut qu'il y ait au moins un entretien pour le sélectionner. Parce que si tu
Mais
sélectionnes un
là, je me permets de vous couper, messieurs, parce qu'on rentre dans un truc, ça me paraît être l'évidence, de toute façon, c'est des entretiens d'embauche, ils parlent à tout le monde, etc. Moi, je parlais vraiment des fuites, des rumeurs, des trucs, un tel va être sélectionné à tel niveau, tout ça, on a quand même l'impression que c'est du pipeau, c'est-à-dire que, et je reprends ce que dit Belichick, c'est les agents qui bossent, en fait.
Oui, bah,
Ah bah oui.
encore une fois, ça fait aussi partie, c'est le côté qui malheureusement est très décrié dans le journalisme, ça fait partie aussi des liens qu'il peut y avoir entre certains journalistes et des personnes de différentes organisations sportives. On va dire, bah tiens, ce serait bien que tu laisses un peu fuiter ça ou quoi que ce soit, tout ça. Enfin, ça fait partie du folklore aussi d'alimenter des rumeurs parce que ça permet de vendre malgré tout du papier et ça permet également potentiellement d'envoyer des messages peut-être un peu contradictoires aux autres franchises. Voilà, je prends un exemple un petit peu caricatural, mais c'est des situations qui, bien entendu, existent et font partie du folklore de la draft.
Les écrans de fumée, c'est chaque année, c'est souvent comme ça, et ça fait partie du jeu, hein, mais ça, je pense que tu le sais. Moi, effectivement, chaque dimanche, il y a un compte voilà, sur les réseaux sociaux qui collecte toutes les rumeurs voilà, qui ont été listées durant toute la semaine. Et moi, je vais pas te mentir, je les lis. Je les lis, je me dis,
Oui,
ah
non,
bah, tu sais,
je.
il y a une phrase qui dit un tel, l'autre phrase dit le contraire, tu vois, par exemple, tu vois, ça fait partie du jeu. Et après, à la fin, donc, de la session de draft, tu as, lui, il a eu 50% de réussite sur ce qu'il avait dit, l'autre 48, enfin,
Mais
voilà, ça fait
c'est
partie
un
du jeu.
c'est presque un débat différent, mais c'est parce qu'on est plutôt dans le journalisme que dans le divertissement, quoi. Ça alimente la
Ça peut
machine.
rester, ça peut rester du divertissement.
Ça fait de mal à personne au sens où c'est un secteur, le journalisme sportif, qui est plus proche du divertissement que du journalisme d'investigation pure. Donc c'est pas, en effet, ça alimente la machine. Il y a Niti, il y a des gens qui te demandent le lien, du coup, hein, pour le mec qui collecte les rumeurs, ça te demande le lien sur le chat.
Ouais, je vais le donner.
Alors, je suis en train de remonter un petit peu sur. Toc, toc, toc. Petite question dans la. Alors, petite question dans la mock d'Alexandre, le choix 33, c'est un defensive end. C'est quoi la différence entre un defensive end et un edge? Vous aviez fait une différence du coup particulière. Les edges, c'était pour les pass rushers. Vous avez mis dans les mocks? J'ai pas
Ouais,
fait
alors
attention pour être honnête.
après, juste pour expliquer la différence fondamentale, un edge rusher, moi, dans mon esprit en tout cas, un edge rusher peut être un defensive end sur un front avec quatre. Peut être un defensive end qui joue sur un premier rideau composé de quatre joueurs ou un linebacker avec un premier rideau composé de trois joueurs. Un defensive end, totalement différemment, peut également être un joueur extérieur sur un premier rideau à quatre défenseurs, mais peut aussi être un defensive end sur un front à trois défenseurs. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je
Il
dis.
est en
Un
gros,
defensive
hein,
end, quoi qu'il arrive, soit
il est
sur le
près de
premier,
la
sera,
ligne.
voilà, sera un defensive end, quoi qu'il arrive, sera sur le premier rideau qui joue plus sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Un edge rusher, forcément par définition en anglais, ce sera un joueur qui jouera exclusivement sur l'extérieur, que ce soit sur le premier ou le deuxième rideau.
Je me permets de refaire un détour. Grid Hacham nous demande, est-ce que la rumeur du trade de Herbert vers une équipe qui a besoin d'un quarterback et qu'ils prennent JJ McCarthy, les Chargers, a du sens pour vous, genre Herbert aux
Non.
Vikings? Alors, non, mais c'est juste pour dire que ça, c'est même pas une rumeur. C'est probablement les élucubrations d'un mec sur les réseaux sociaux. Et ça rajoute une couche à la problématique des rumeurs. C'est maintenant, les gens voient passer des trucs sur les réseaux sociaux et savent même plus si ça vient d'une source fiable ou quoi. Là, si Herbert est envoyé ailleurs, ça veut vraiment dire que Jim Harbaugh est arrivé en Californie, qu'il est allé directement à Hollywood sniffer toute la cocaïne disponible sur les plateaux, qu'il est complètement explosé et qu'il va récupérer un jeune quarterback. Et en plus, toutes ces sortes d'élucubrations, rapprochements fumeux de ah oui, mais lui il l'a connu à la fac, etc. Donc il va le sélectionner. On en a tous les ans et ça se passe quand même quasiment jamais.
Surtout que s'il y en a bien un qui connaît mieux les limites de JJ McCarthy que nous, je pense que c'est Jim Harbaugh. Est-ce qu'il a intérêt à se séparer d'un quarterback qui n'a. Enfin, je vais être peut-être injurieux envers Alex Smith et Colin Kaepernick,
Oui,
mais à mon sens, il n'a
c'est
jamais eu
probablement
un
le meilleur qu'il y a
quarterback
eu,
avec
ouais.
ce talent-là en NFL, alors qu'on sait qu'en plus, les qualités, par exemple, offensives qu'il a su mettre en avant pendant sa carrière, c'est le jeu au sol et la ligne offensive. Si tu viens à changer de quarterback, je prends le principe. Tout le monde n'est pas Josh McDaniels. Tout le monde ne
Oui,
met pas le
voilà.
feu. Tout le monde ne se débarrasse pas de son quarterback numéro 1 et à Denver et à Las Vegas. Donc au bout d'un moment, je pense que voilà. J'ose penser que Jim Harbaugh est un peu plus raisonné que ça.
Il faut un certain type de personnalité pour en arriver là, en effet, tu le rappelles
Voilà.
bien.
Une personnalité qui lui a valu de prendre deux fois la porte.
Voilà, Tussino do Brasil, de 1 à 10, c'est quoi votre niveau d'excitation pour la draft?
Oh, un bon 7 quand même, hein, à
Je dirais
minima.
8 même. Je dirais 8 même.
Ouais.
Surtout le premier tour. Le premier tour, et franchement, le top 5, il ne faut vraiment pas le louper, parce que clairement, il peut se passer beaucoup de choses.
Au fil des feuilles sur Twitter, quel joueur selon vous sera une surprise en étant sélectionné au premier tour et quel joueur garanti d'y être glissera au deuxième? Alors, est-ce qu'il y a un joueur qui pourrait monter au premier tour à la surprise générale dont on ne s'y attend pas?
Ouais,
Nick Ya, oui, il y en
moi
a.
j'en ai. Oui, il y en a. Moi j'ai un linebacker carrément. Ça pourrait être
Oui, oui.
le nouveau Jack Campbell. C'est Peyton Wilson. C'est Peyton Wilson. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Peyton Wilson, il a déjà une grosse production universitaire et c'est un leader. C'est un vrai leader de défense. Et clairement, hein, en NFL, des leaders de défense, il n'y en a pas tant des masses hein, que ça hein, dans les équipes NFL. Peyton Wilson peut l'être.
Je fais juste un
Trop de blessures aparté. pour moi, hein, mais bon, après.
Je reviens juste sur un truc avant la réponse de Greg. Grid Hacham, je parlais de la rumeur et tout ça, c'était pour prendre un exemple. Évidemment, il n'y avait rien de personnel là-dedans. Je ne tombais pas sur le commentaire en particulier. Grégory, pardon.
Alors, moi, j'hésite entre deux joueurs. Je vais tricher un peu. J'ai milité pendant de nombreuses semaines, même si ça en a laissé beaucoup sceptique. Chris Braswell, le edge rusher d'Alabama. Et je me dis pour donc un joueur qui peut être invité au premier tour et je suis pas loin de me dire que de par son profil, Jordan Morgan, le tackle d'Arizona, peut aussi être sélectionné au premier tour vu
À lui,
qu'on
il
a
a de grandes
affaire
chances.
à un potentiel tackle gauche. Ça aussi historiquement dans la draft, quand on sait pas trop quoi faire entre les choix 20 et 32 généralement, on va vers les choix de la sécurité. Un bon tackle des familles, et il y en aura quelques-uns a priori dans ce secteur-là.
Pour les joueurs qui pourraient tomber au second tour alors qu'on les attend très très haut, est-ce qu'il y a un nom, mais genre vraiment un des mecs haut quoi, qui pourrait s'éclater un peu à la surprise générale? Je sais pas, une dinguerie, genre un des quarterbacks dont on a parlé qui pourrait finalement un peu à la surprise générale se retrouver au deuxième tour, parce que c'est déjà arrivé finalement qu'il y ait des quarterbacks attendus assez haut qui s'écroulent.
Oui, Will Levis, tout simplement.
Ah oui,
Il
voilà,
était attendu,
je cherchais un nom récent.
il était attendu dans le top 10, voire top 15, et il est tombé au deuxième tour. D'ailleurs, lors de du salon, là où les joueurs attendent pour venir sur la scène, il a attendu pendant quasiment 4 heures pour rien. Et il est retourné chez lui pour le deuxième tour. Et il est
J'imagine.
sélectionné plus tôt. Donc, ça, c'est juste énorme. Bref, ça, c'était un aparté. Ouais, si. Ouais, j'en ai peut-être un. C'est un edge rusher. Parce que je sais pas, son profil pourrait peut-être diviser ses jarres adverses.
Ah oui, il était dans la moque au premier tour.
Ouais.
Ah, tu vois, je pensais pas à lui. Moi, je pensais plus à l'Ayatoulatou. Autre nom qu'a
Ouais.
beaucoup aimé Alain, je pense. L'Ayatoulatou, gros problème, gros historique de blessure. Un joueur qui a pris, j'allais dire sa retraite, en tout cas, qui a arrêté le football tout simplement, qui a quitté l'université de Washington pendant une période. Il s'est relancé à UCLA. Alors, c'est pas rédhibitoire parce qu'il a un profil qui ressemble beaucoup à Jalen Phillips, le head rusher de Miami, qui avait été sélectionné, je crois, vers le 15e ou 16e spot
18e.
à l'époque, 18e, autant pour moi.
18e.
Mais on voit que ce n'est pas un titulaire indiscutable non plus du côté de Miami. Donc est-ce que ça n'a pas non plus fait cogiter certaines franchises et où on ne va pas se dire, bon, bah en début de deuxième tour, peut-être, mais miser un premier tour, un peu comme Peyton Wilson, hein, il y a un talent qui est indéniable, mais est-ce que d'un point de vue fragilité, on ne lance pas un peu trop les dés là? Ça peut être un joueur, en effet, là encore, qui pose beaucoup de questions.
Merci. Il y a Oeno qui a offert 5 abonnements de niveau 1 à la communauté. Encore pendant ce live, on a plein d'abonnements qui sont partis. On va terminer, messieurs, avec trois questions. Un peu pronostiques. On va
Oula.
pas passer dans les pronos. Alors, non,
Allez.
il y en a une spéciale pour Greg, tiens, qui était sur le chat plusieurs fois avant de mes trois dernières questions. Quelle est la dinguerie que tu redoutes le plus des Atlanta Falcons? Parce qu'il y a des gens qui disaient les réactions de Greg au choix des Falcons, ça fait partie aussi du rituel. C'est comme le costume de Jean-Michel maintenant.
Surtout que Terry Fontenot, j'aime beaucoup ce qu'il fait à Atlanta, mais généralement,
Donc,
sur les premiers choix de draft, à chaque fois,
alors
il me fait
voilà,
manger mon chapeau.
je vais me permettre de reformuler un petit peu.
Oui.
Quel est le nom qui provoquerait la réaction la plus désabusée et drôle pour nos auditeurs? C'est-à-dire quel nom ils doivent attendre, tu vois, quand ils vont regarder jeudi soir, en se disant, faut qu'ils disent ce mec-là, comme ça, Greg,
Il
il
va
va
te sortir le
exploser.
même nom de toute façon. Hein. Il va te sortir.
Ouais, si t'as un running back déjà au 8e choix, je pense que mes yeux ont s'écarquillé un petit peu.
Oui, voilà.
Ah si. Normalement, en 8, il sera plus disponible. S'ils
C'est
disent
ça.
JJ McCarthy, voilà, là, je peux manger mon chapeau.
Oh bah non, ils ont signé Kirk Cousins, ils ont déjà un quarterback.
Ah, attends, Kirk Cousins, ce n'est pas de première jeunesse malgré tout, même si on lui souhaite de revenir en forme, moi le premier.
Alors attends, la moque
Mais ce n'est
dit
pas
Dallas.
impossible qu'Atlanta choisisse de sélectionner un quarterback du futur à former derrière Kirk Cousins.
Alors, la mock dit Atlanta, Dallas Turner, Alabama. Ça tirait?
Ça a mes préférences depuis un petit moment déjà.
Ok. Je regarde ce qu'il y a autour. Ole Fashanu.
Non, je sais pas.
Non,
Bon,
ça tirait.
ligne offensive, c'est pas ce qui me paraît. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de besoin. En fait, c'est toujours pareil. Moi, je réfléchis en termes de besoin, mais après, tu as la logique de meilleur joueur disponible qui peut s'entendre et que
Dis-moi
moi, je
juste
respecte
celui
à
qui te dégoûterait le
100%.
plus, moi. C'est voilà. Donc, JJ McCarthy, quoi.
Franchement, dégoûté, je ne sais pas s'il y a un joueur. Non, je te dis peut-être une surprise. C'est sûr que si tu me sors Chubb Robinson en 8e choix avec ce que j'en ai dit tout à l'heure, je vais pas arriver avec un grand sourire en disant, les gars, on a fait l'affaire du siècle ce soir.
Voilà, donc Chubb Robinson,
Voilà,
notez bien.
éventuellement, oui, bon,
Chubb
écoute.
Robinson, le chouchou de Greg en
Enfin, deux
8.
Robinson en plus de suite dans le top 10, ce serait bien.
Alors, il y a un petit une petite remarque stylistique dans le chat, je fais un aparté. Orlin qui nous dit au niveau sourcil, Greg, c'est le fils spirituel de Carlo Ancelotti.
Sans doute. Je le prends comme un
Apparemment, tu
compliment,
lèves
en tout
bien
cas.
le sourcil quand
Tout à
tu es
fait, oui.
étonné.
J'ai cette faculté-là, ouais.
On passe au prono. Quelle équipe va faire la meilleure draft?
Oh,
Dis-moi. Oh,
alors
tu vois.
là,
Qui va faire une dinguerie, tu vois, genre si les Vikings y montent et qu'ils prennent un mec en 4 ou en 3 ou en 2 et vous dites ah c'est génial.
Moi, teasing pour demain, pour la
Ah.
mock, je pense que les Cards peuvent faire une bonne draft.
Cardinals, très bien. Nitinia.
Moi, je vois bien les Colts faire une bonne draft.
Pourquoi?
Pourquoi? Bah, Ils ont un manager général qui est assez doué quand même pour drafter de très bons joueurs. L'an dernier, il en a fait une très bonne avec Anthony Richardson notamment. Donc, je me dis, s'ils peuvent continuer sur cette lancée, je me
Ça va
dis
pas être
pourquoi pas.
facile, hein, leur premier choix, c'est le 15e.
C'est ça. Et puis ensuite, ils ont un deuxième tour. Ils ont eu, je crois, 7 ou 8 choix, si je ne dis pas de bêtises. Mais ils peuvent trouver du talent avec les choix qu'ils ont.
Oui,
Donc,
c'est une équipe assez complète, donc après, c'est juste trouver justement. Pour le coup, on parlait des bonnes affaires. S'il y a des joueurs qui glissent un peu plus bas que ce qui était attendu, Indianapolis peut s'en frotter les mains et continuer d'apporter un peu
C'est
de
ça.
profondeur sur certains postes.
C'est ça, c'est ça.
Adrien MTL sur le chat. Oui, vive les Colts. No Leave, la dernière draft des Colts, c'était un banger. Bon, on est d'accord avec vous. Pronostic, le top 3. C'est quoi le top 3 de la draft? Ah, vous savez quoi? Top 5.
Ah ouais, tant qu'à faire.
Allez.
Allez, c'est quoi le top 5?
Tu le veux dans l'ordre, forcément?
Dans l'ordre.
Oh
Bears,
là là.
Commanders, Patriots, Cardinals, Vikings, Chargers, pardon. C'est Chargers son 5.
Allez, pour la déconne et pour faire plaisir aux fans des Pats, Williams, Daniels, McCarthy, Harrison, Mays.
Donc, Caleb Williams aux Bears, Jaden Daniels aux Commanders. Ensuite, tu m'as
JJ
dit quoi?
McCarthy aux Patriots,
JJ McCarthy aux Patriots,
Marvin Harrison
Cardinals.
Jr. en Cardinals, et Drake May qui du coup irait plutôt à Minnesota en cas d'un échange.
Drake May, quarterback. Donc, on a quatre quarterbacks et Marvin Harrison.
C'est ça.
C'est ça. Nitinia, ton top 5.
Caleb Williams, Jaden Daniels.
Donc là, pareil, les deux. En fait, donc Caleb Williams, Jaden Daniels en 1-2, ça a l'air.
Voilà.
C'est la tendance. Hein.
Pour l'instant, c'est ce qui ressort le plus.
Ouais.
Pareil sur la mock draft.
C'est ça. Ensuite, je sais pas pourquoi, mais je vois les Patriots descendre. Drake May en 3, et c'est les Giants qui le récupèrent.
Ah, donc c'est même avis
Ouais.
que Alex qui l'a mis dans la draft.
Exactement, exactement. Mais moi, je vois gros comme une maison. C'est pour ça, en fait,
C'est pas un cri du cœur, Nietzsche.
Ouais. Un peu, si. 4e, Marvin Harrison Jr. et 5, Joe Alt.
Joe Alt,
Ouais.
donc aux
Donc,
Chargers pour
en
poser.
fait, JJ McCarthy, je le vois en 6 chez les Patriots en bas.
Ah oui, tu les vois descendre juste
Ouais,
après
voilà.
pour prendre JJ
Exactement.
McCarthy.
Personne ne nous insulte sur le
Ouais.
chat, il n'y a pas de fan des Pats. Pas trop au
Ouais.
niveau des insultes. Après, tu sais, il y a beaucoup de fans des Patriots qui ont disparu il y a 3 ans. Hein,
Ouais. C'est
voilà.
vrai.
4 ans maintenant, ça commence à faire un moment qu'il est parti des Patriots, Tom Brady.
Attention, il va peut-être revenir.
Prédiction folle. Allez, le truc dingo qui va se passer. Hein. Ça peut être un échange, ça peut être un choix, ça peut être Roger Goodell qui fume un bong avec un joueur. J'en sais rien. C'est vous là qui nous teasez. Pourquoi les gens vont se lever à 1h30 du matin pour vous regarder. Qu'est-ce qui va se passer de dingo?
Je peux être très original, mais je pense beaucoup d'échanges. Je fais un teasing, rien que sur la mock de demain. Ça ne veut rien dire par rapport à ce qui va se passer dans 2 jours, hein, entendons-nous bien. On n'a pas cette prétention, loin de là. Il y aura 13 échanges. Je
Ok.
pense qu'on peut franchir la barre des 10.
Ok. Au moins 10 échanges. Très
Au
bien.
moins 10 échanges.
Nitinia. T'as
Allez,
dingue qui dit ce truc.
une prédiction pour le premier soir de la draft. Eminem qui fait un draft, un rap avec Roger Goodell en prononçant le choix des Detroit Lions.
Voilà, mais oui, voilà. Très bien. Il sera là?
Je sais pas,
Moi, il
mais
va faire un teasing
en fait,
vidéo, en tout
il
cas.
a fait
Hein.
un teasing vidéo, ouais. Ça,
Ok.
c'est vrai.
Très bien.
Voilà.
Bon, en tout cas, les gens vont se lever pour voir la tête de Grégory au moment du choix des Falcons, nous dit Babs sur le
S'il y a des
chat.
gens qui se lèvent que pour ça, moi, ça m'énerve.
Ah, c'est énorme.
Brandon Ayuk échangé le soir de la draft, c'est vrai que ça fera partie des
Ah, ça
choses
peut.
à.
Bah, de
Il
toute
fait
façon,
partie des 13 échanges. Hein.
T'as une pelletée de
Ouais.
receveur, hein.
Ouais.
T. Higgins, même Edge Brown, on sait qu'il est beaucoup dans les
Ouais.
discussions aussi.
Ouais.
J'exclus pas DK Metcalf aussi à Seattle.
Fly Raiders, pardon, qui nous demande si la classe de receveur est une des plus profondes de ces 10 dernières années. J'ai cru comprendre que oui, visiblement. Eminem en duo avec Barry Sanders
Ah, génial.
nous propose nos
Ça
livres,
serait
voilà.
magnifique.
Bon, ça va être une draft folle, ça va être trade de partout. Voilà, il va se passer quand même pas mal de choses. Quelle équipe qui a un choix du premier tour et ne va pas drafter au premier tour? Alors, c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a des équipes qui vont pouvoir descendre. Enfin, voilà, Il va se passer énormément de choses. Victor, ça aussi, c'est un gros moment, nous dit Pape. C'est oui, Victor va arriver aussi, sera là pour le
Ah bah
live.
oui, Victor sera là avec sa
Ouais.
sulfateuse, donc venez
Alors,
nombreux.
on va rappeler les bases pour terminer cette émission et je rebondis sur une question de Jojo, de Chakma, pardon, dans le chat. Quelle heure la fin du premier tour? Alors, globalement, pour ceux qui veulent suivre là, et que, dont ce sera peut-être la première draft ou qui vont y revenir, on l'a dit, vous prendrez l'antenne à 1h30 du matin. La draft officiellement commence à 2h du matin et le premier choix est attendu autour de 2h10 et quart 20 selon le temps
C'est
que Roger
ça.
Goodell prend,
On
selon
va
les
dire que
équipes.
2 heures, c'est le lancement de l'émission draft, notamment sur NFL Network.
Voilà.
Quelques minutes après, on lance le premier choix. Et en effet, comme tu le dis, parce que c'est 10 minutes au premier tour et 7 minutes après, c'est
Il
ça?
faut, il faut, il faut laisser déjà les sifflets, voilà, qui vont
C'est ça.
durer 5-10 minutes. Ensuite, Roger Goodell qui lance la draft. Et ensuite, 10 minutes pour faire le choix. Donc, ça peut aller jusqu'à 2h20,
Et
2h30 même.
je me trompe sur les temps, c'est quoi? C'est 10, c'est 10 minutes le premier jour,
C'est
7 le deuxième et 5 le troisième, non? C'est un truc comme ça?
exactement, c'est 10 premiers, 7 deuxièmes, 5 troisièmes.
C'est ça, ok.
Ça n'a pas changé pendant ce temps-là, malheureusement.
Et pour être vraiment très précis, pour vous donner vraiment le timing précis de l'an dernier, puisque je me suis regardé le replay de votre live de l'an dernier, en tout cas en partie, le premier choix était arrivé au bout de 18 minutes. Après, il y avait eu l'avant-match, après vous aviez démarré le live draft, donc à 2h du mat, donc le premier choix est arrivé à 2h18 apparemment, si les timecodes YouTube correspondent à peu près à l'horaire. Donc voilà, ça vous donne une idée. Et donc derrière, on pousse jusqu'à quelle heure, puisqu'il faut 10 minutes par choix fois 32. Souvent, même quand c'est évident, ça va quand même pousser au niveau de l'horloge. Et même quand l'horloge s'arrête, il faut le temps que Roger Goodell arrive, qu'il annonce le choix, etc. etc.
Alors, il n'y a pas de vérité absolue. Généralement, les 10 premiers choix, ça temporise un peu. C'est aussi parce qu'il y a les interviews des principaux joueurs, etc.
Les
Parce que
pubs.
souvent, les principaux joueurs sont ceux qui seront sur place, même si cette année, il y a un nombre faiblement record de joueurs
Ah
qui seront
oui,
présents sur
il n'y en a que
place.
13.
C'est ça.
Ouais.
Donc, ça permet aussi de faire monter un peu la sauce, d'avoir les réactions, l'interaction avec le public, etc., etc. Ça va un petit peu plus vite par la suite. Comme ça. Je dirais qu'il faut s'attendre à une fin de premier tour aux alentours de 5h45 du matin.
Oui, j'allais dire 6 heures, ouais, en tapant large. Tapant
C'est
large,
ça.
faut compter 6 heures. Donc ça vous permet de prendre votre petit déjeuner dans la foulée.
C'est ça.
Partez au taf à 7h30, 8h.
Normal, quoi,
C'est bien,
tranquille.
quoi. Vous êtes pas
Ouais.
mal.
Voilà.
Vous êtes pas mal. Bon, voilà pour. Il y a Toussino qui disait à quel pic est-ce que Victor et Jean-Michel vont s'embrouiller?
Bah, le pic de JJ McCarthy,
C'est ça.
voilà,
Ah bah
c'est le
oui,
moment.
et le
Ouais.
chat les connaît bien parce que quelqu'un avait justement répondu celui de JJ McCarthy.
À partir du
Ouais.
troisième, on ne jure de rien. Normalement, les deux
Ouais.
premiers choix, ça devrait aller. Encore que, on ne sait jamais. Mais à partir du troisième, ça peut commencer à y aller sévère.
On va se terminer avec ce conseil de Nolive qui vous dit, messieurs, essayez de dormir un peu avant. Généralement, vous finissez en mode zombie.
Oui.
Et c'était déjà le cas quand je faisais des lives. À la présentation et on faisait qu'un tour. Maintenant, vous faites les trois premiers. Donc, j'imagine même pas l'état dans lequel vous êtes à la fin du troisième. Vous êtes admirable de courage, messieurs. On va rappeler les bases une dernière fois. Premier tour en nuit de jeudi à vendredi à partir de 1h30 sur cette chaîne twitch.tv/tdactu. Évidemment, en replay le lendemain sur YouTube et en podcast. En live avec Greg à la présentation, Jean-Michel et Victor à ses côtés. Résumé à l'écrit sur le site par Nitinia. Article par Alex Locke, réseaux sociaux, Sébastien Polomeni. Deuxième et troisième tour à partir de 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi avec Grégory et Jean-Michel. Et Nitinia sera probablement à l'écrit. Le troisième jour, évidemment, vous aurez tous les choix à l'écrit sur le site. Et on va essayer de vous mettre un petit mot sur chaque joueur jusqu'au bout, évidemment. On va aussi vous rappeler que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, slash Touch en Actu. Il
Juste en
y a
profiter,
toujours
hein.
les affiches. Attends une seconde,
Ah,
je me.
pardon,
Laisse-moi
vas-y.
présenter les affiches. C'est ce qui paye ton salaire.
Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y.
Donc, je disais tipeee.com/touchdownactu. Il y a des très belles affiches. 10 euros l'affiche, 25 euros les trois. Elles sont à thème draft en plus. C'est hyper joli. C'est des affiches format A4. Vous pouvez acheter un petit cadre pour mettre ça dans votre bureau, au-dessus de votre machine à café, un peu partout, à côté de la télé. C'est bien aussi. Voilà. Grégory, tu voulais dire?
Bah, la moque de demain.
Et la mock de demain. Tu as raison. Les lives ne s'arrêtent pas. Demain, même heure, 20h. Donc, à partir de 19h, le Twitch commence avec le décompte. Et puis, 20h, bim! C'est Grégory qui présente.
C'est
J'ai un
ça.
trou, j'ai fait le planning, mais je ne me rappelle plus avec qui tu t'es demain.
Niki sera là, Camille sera là également à la technique et Jean-Michel prendra ta place.
Exactement. Eh bien voilà.
Numériquement, j'entends.
Numériquement, très bien. Jean-Michel, donc, prendra le relais. Merci encore une fois à Camille Sarabène à la technique, qui sera fidèle au poste pendant toute la semaine. Très, très grosse semaine pour Camille. Oui, tous les replays seront sur YouTube, je le redis, hein, je vois que vous le demandez sur le chat. Ne vous inquiétez pas, on met tout en replay. S'il y a un live, c'est automatiquement replay sur YouTube. Voilà. C'est vraiment à chaque fois. Et globalement, pour les lives de la draft, depuis toujours, c'est aussi en replay podcast. Donc il n'y a pas de problème là-dessus aussi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Également, on va pas vous cacher que ça rapporte plus en audio que sur YouTube. Donc n'hésitez pas si vous préférez l'audio ou si vous avez des transports, etc. C'est plus simple. Voilà, encore une fois, merci Nitinia, merci Grégory d'avoir répondu aux questions de tout le monde. Merci au chat pour toutes les questions. On vous retrouve encore une fois pendant toute cette semaine de draft. J'allais appuyer sur le petit bouton sur lequel j'ai l'habitude d'appuyer pendant les fauteuils, mais en fait, c'est pas moi qui l'ai, c'est Camille qui gère tout ce soir. Merci encore Camille Saraven, je te laisse lancer le générique de fin. Merci tout le monde et à demain 20h pour la mock draft.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.